attendez cet épisode pour parler de bébé Yoda ou pas?
Bébé Yoda.
On va se mettre tous les fans de Star Wars à dos en disant bébé Yoda. J'ai l'impression que c'est le truc en mode t'es pas vraiment fan, tu l'appelles The Child. Enfin non, c'est l'inverse. T'es pas vraiment fan, tu l'appelles bébé Yoda. T'es vraiment fan, tu l'appelles pas bébé Yoda.
Non, mais je crois que c'est devenu un peu largement accepté que tout le monde l'appelle bébé Yoda. Et même si tout le monde sait que c'est pas Yoda, tout le monde l'appelle bébé Yoda. Disney a beau essayer de nous faire appeler l'enfant ou The Child, personne l'appelle l'enfant ou The Child.
Non, c'est clair.
Bienvenue sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café ou pumpkin spice latte. Et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
Ici, pas de prise de tête, ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et pour ce 8e épisode, on plonge enfin dans l'univers Star Wars.
C'est pas trop tôt.
Avec Marjo, on est deux grandes fans, voilà, on attendait quand même ça, cet épisode avec impatience. Donc comme la saison 2 de The Mandalorian arrive dans quelques jours sur Disney+, il était grand temps qu'on discute enfin de la saison 1 pour se remémorer un petit peu tout ce qu'on avait vu. C'était un énorme succès pour les débuts de Star Wars en série live action, et donc c'est du coup très bon augure pour la série Obi-Wan qu'on attend tous avec grande impatience.
Oui.
Alors du coup, si vous n'avez pas vu The Mandalorian et que vous hésitez à vous y mettre, restez surtout pour notre première partie sans spoiler qui va peut-être vous donner envie ou pas. Ensuite, on fera un bref résumé de l'intrigue principale pour rafraîchir la mémoire de ceux qui l'ont vu mais il y a longtemps du coup à la sortie et qui veulent se rappeler un petit peu toutes les spécificités avant de s'attaquer à la saison 2. Et ensuite, on plongera dans The Mandalorian, l'univers Star Wars, une discussion sur la superstar de la série, Baby Yoda, puis des petites discussions sur les différents personnages, une chronique historique sur les Mandalorian faite par Marjo, qui est notre experte.
Yes.
Des détours par les making-of, et bien sûr, nos moments préférés de la saison 1 et nos attentes pour la saison 2. Donc c'est parti, gros épisode en perspective, mais on va essayer que ça ne dure pas non plus 3 heures.
Sacré programme.
Oui, en fait, là, quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, ouh, en fait, on a plein de choses à dire.
C'est clair. Bon, bah, du coup, on va pas perdre une minute et on va commencer par la présentation générale de la série et nos avis sans spoiler. Donc, déjà, je pense qu'il faut remettre un peu les choses dans son contexte. Et se dire que, certes, une bonne partie du public qui regarde The Mandalorian connaît Star Wars, je pense, exclusivement via la saga de films que Disney a renommée la saga Skywalker, donc les 9 films qui font la saga complète maintenant. Mais en même temps, Star Wars s'est, dès le début, étendu dans plein d'autres médias, romans, comics, jeux vidéo, et en particulier pendant la période pré-Disney. Et donc maintenant, tous ces développements d'univers avant que Disney rachète Star Wars font partie d'un univers étendu qui a été qualifié de légende. Donc ce n'est plus le canon officiel. Et donc toute cette partie d'univers étendu n'avait pas vraiment de coordination. Chaque auteur faisait son truc dans son coin, etc. Donc il pouvait y avoir potentiellement des incohérences. Mais ce n'était pas grave, c'était très riche, très foisonnant. Et il y a des fans vraiment de cette partie-là de l'univers. Et dans ce cadre-là, il y avait plein de personnages secondaires qui avaient le droit à des développements de leur passé, de leurs aventures, etc. Et c'était le cas de Boba Fett et de Jango Fett, qui sont très vite devenus en fait parmi les personnages préférés du fandom Star Wars, même s'ils avaient des rôles assez secondaires pendant les films.
J'avoue, c'est la première pop que j'ai eue. Boba Fett. Je sais pas pourquoi. Je trouvais qu'il était stylé. J'aimais bien.
Ben, je crois que c'était la raison principale pourquoi Boba Fett avait tant de succès. C'est juste son style, quoi. Il est cool.
Bah oui, non, complètement. Il avait de la classe. On le voyait, on était là. Ah ouais, quand même.
Mais tout ça, c'était avant que Disney arrive et rachète la franchise. Et donc, en même temps que leur rachat, Disney a vraiment voulu reprendre la main sur tout cet univers transmédia de l'univers Star Wars. Et du coup, comme je l'ai dit, tout ça a pris l'étiquette légende et ne fait plus partie du canon officiel. En fait, maintenant, il y a un story group qui est en charge de diriger tous les développements d'histoire hors des films, puisqu'il continue à faire des romans, des BD, des jeux vidéo, etc. Mais il y a ce story group qui fait en sorte que tout soit cohérent, se complète, entre en écho les uns les autres, etc. Et en fait, bah, les Mandaloriens avaient déjà été développés dans ce cadre juste avant le rachat Disney et qui a continué après le rachat Disney, notamment dans des séries d'animation The Clone Wars, donc qui date de la période pré-rachat Disney, et Star Wars Rebels, qui est la première production Star Wars sous la coupe Disney. Et The Clone Wars, malgré que ça faisait pas partie de la saga Skywalker, ça a été le seul aussi, la seule chose hors film qui est restée dans le canon officiel. Donc tout ce qui concerne les Mandaloriens dans The Clone Wars reste dans le canon officiel. Et la série The Mandalorian, ça rentre vraiment dans cette continuité de The Clone Wars, Star Wars Rebels, et ça continue d'explorer cette partie de l'univers, quoi.
D'ailleurs, si je me trompe pas, alors moi j'ai vraiment suivi juste la saga Skywalker. J'avais du mal à suivre des choses qui pour moi n'étaient pas un peu officielles. Mais c'est mon problème quand j'aime quelque chose. Par exemple, j'adore Disney, mais tout ce qui va être livre où il raconte un peu les histoires des méchants, etc., j'ai toujours pas l'impression que c'est officiel. Donc je n'aime pas, je ne regarde pas, je ne m'y intéresse pas. Mais maintenant que Clone Wars et Star Wars Rebels sont bien actés univers Star Wars, entre guillemets, canon officiel, je vais m'y pencher plus sérieusement. Mais du coup, si je ne me trompe pas, The Mandalorian, c'est la suite directe de ces deux séries animées.
Alors, c'est pas forcément Enfin, en tout cas, la première saison n'est pas forcément la suite directe parce qu'on retrouve pas... Il n'y a pas de personnages en commun pour l'instant.
Oui.
Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment dans la continuité, notamment parce qu'il y a une personne très importante pour Star Wars qui reste derrière tout ça. C'est Dave Filoni, qui était du coup le créateur, le réalisateur, superviseur de The Clone Wars et de Star Wars Rebels, et qui est à nouveau dans l'équipe de The Mandalorian. Le showrunner, c'est Jon Favreau, mais voilà, Dave Filoni, il a écrit plusieurs des épisodes, il a réalisé certains des épisodes, et c'est vraiment lui qui s'assure que tout ça soit cohérent, quoi.
D'accord. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de en reparler un petit peu plus tard dans l'épisode.
Ouais.
Et du coup, la série est sortie directement sur Disney+, l'année dernière, avec un rythme d'un épisode par semaine. On y suit un Mandalorian. Alors, pendant cet épisode, on va le surnommer Mando, hein, parce que c'est un peu comme ça qu'il est surnommé, mais on reviendra sur son nom un peu plus tard. Dans sa vie de chasseur de primes, une fois que l'Empire a été renversé. Voilà, ça c'est l'histoire, juste pour faire bref, sans spoiler.
Voilà.
Mais alors du coup, personnellement, moi j'ai beaucoup aimé la série, pas uniquement parce que je suis fan de Star Wars, hein, comme je l'ai dit, dès qu'il n'y a pas... Enfin, il ne suffit pas que ce soit estampillé Star Wars pour que j'aille regarder, que je m'y intéresse et que j'apprécie, mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé l'ambiance particulière. On voyait que c'est du Star Wars, mais il y a quand même une identité qui est particulière et je pense que c'est ça qui m'a fait m'accrocher. Elle a, je trouve, c'est mon avis, un côté un peu fanservice, qui je pense a un peu être assumé. Justement, comme on disait, on a vu la hype liée à Boba Fett, et du coup, grâce à son style, hein, c'est surtout ça, parce que son rôle en lui-même, il faisait pas grand-chose, enfin, il avait une importance, mais voilà, on le voyait pas beaucoup. Et je pense que le fait que Disney fasse une série, justement, sur un personnage qui a le même style, et il me semble avoir déjà lu quelque part qu'effectivement, c'était un peu ça l'idée. Et du coup, bah, ce style qu'il parle justement de l'histoire des Mandaloriens, etc. Je pense que ouais, c'est un peu, on fait plaisir aux fans, on fait une série, on sait qu'elle va accrocher, que les gens vont accrocher grâce à ça. En tout cas, ouais. C'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Après, pour moi, ça marche. Ça marche tout à fait. En plus, c'est pas juste une série pour faire une série, même si au départ, je pense qu'effectivement, c'était une série pour les fans. Il y a eu une vraie recherche. Comme j'ai dit, j'ai adoré l'ambiance très particulière qui est un petit peu western, surtout au niveau de la musique. J'ai adoré en savoir plus sur les Mandalorian, parce que du coup, moi, comme j'ai vu que les films de la saga Skywalker et les deux premières saisons de Clone Wars, si c'est vrai. Mais il y a tellement longtemps que j'ai un peu tout oublié. Du coup, je connaissais pas grand-chose sur le sujet. J'ai vraiment surkiffé la musique. Je trouvais qu'elle était incroyable. On en parlera aussi, mais elle rentrait parfaitement...
Vous aurez remarqué que ça y est, on intègre de la musique à l'intérieur de nos épisodes et on est content de le faire en pour cet épisode en particulier.
Ah, tu m'étonnes, ça aurait pas été pareil sinon. Mais voilà, donc comme vous avez pu l'entendre, la musique, c'est quand même... on sent la touche Star Wars, mais elle a quand même une identité musicale qui est incroyable. Et on en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure. Bon bref, de toute façon, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais dans tous les cas, voilà, j'ai été conquise. Il y a quand même quelques points négatifs, j'en reparlerai plus tard aussi. J'ai pas regardé la série tout de suite, du coup j'ai été spoilée sur Baby Yoda. Oui, je sais, c'est pas Baby Yoda, mais on va dire Baby Yoda quand même. Et du coup, moi, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pas ressenti d'émotion, parce que cette scène d'introduction, je l'ai trouvée un peu too much, un peu cheap, un peu ridicule, ce côté E.T., vas-y, on se touche le doigt. Je pense que si... Non, mais faut se l'avouer quand même. Je pense que peut-être si j'avais pas vu Baby Yoda avant, j'aurais été émue dès le début, parce que j'aurais été surprise, et je me serais dit « Oh, mais, oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est qui? Mais oh, c'est trop mignon !» Et peut-être que ça aurait matché. Ouais. Là, comme je savais qu'il allait arriver, j'ai trouvé vraiment la scène... je me suis dit « Non, mais il se moque de moi, c'est quoi ça ?» Du coup, j'ai eu beaucoup de mal au début à accrocher. Et du coup, j'ai attendu qu'ils soient tous sortis pour me les enchaîner. Et au final, bah, j'ai adoré, quoi. Bref, ouais. Je vais m'arrêter là. Et toi, Marge, t'en as pensé quoi?
Alors moi, déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'avais réussi à n'avoir aucun spoiler. Mais vraiment aucun.
Bien joué.
Et j'ai regardé le premier épisode juste après qu'il soit sorti. Donc je ne savais même pas pour Baby Yoda. Parce que, bon, faut dire que dès que le premier épisode est sorti, on ne pouvait pas ouvrir Internet sans voir sa petite tête partout. donc du coup, ça, je pense que ça a été un point hyper positif pour moi, parce que ça a eu l'effet... que c'était censé avoir, quoi. Enfin, ça a eu l'effet sur moi que c'était censé avoir, puisque c'était une vraie surprise, quoi. C'est important à mentionner dans mon appréciation de la, de la série. Donc, c'était en fait, ouais, une série que j'avais, même si j'avais hâte de la voir, parce que bah, je suis fan de Star Wars, et pour le coup, j'étais déjà fan de The Clone Wars et de Star Wars Rebels, donc rien que le fait que je savais que Dave Filoni était derrière tout ça, je me suis dit, ça devrait me plaire, mais j'en étais quand même pas trop sûre parce que j'avais vu les bandes annonces. Et en fait, bah, j'avoue que le personnage principal qui ressemblait autant à Boba Fett, bah, j'avais jamais eu vraiment moi de fascination particulière pour ce personnage. Donc, et moi, pour moi, les Mandaloriens, surtout après avoir vu les séries animées, je les appréciais surtout pour les personnages féminins. Qui avait été vachement développé dans les animés. Et bah, ça me saoulait un peu, j'avais l'impression d'un peu d'un retour en arrière, un retour sur une Boba Fett qui m'intéresse moins, quoi. Du coup, ouais. J'étais pas trop sûre. Et, mais par contre, l'ambiance western qui était vraiment annoncée dès les premières images et tout, ça me donnait envie. Et j'ai bien fait, comme je disais, de regarder dès la sortie, parce que j'ai tout de suite accroché totalement à l'ambiance, comme tu disais. En plus, avec ce côté un peu mythique, je sais pas trop si c'est le bon mot, mais on sent qu'il y a une espèce de mythologie en fait qui porte cette série, et qui est pas que la mythologie Star Wars. Il y a un truc vraiment propre à cette série dans lequel on peut se plonger sans rien connaître d'autre en fait, parce qu'il y a des trucs totalement nouveaux, même quand on connaît tout ce qui est sorti avant, il y a des trucs totalement nouveaux dans cette série, et ça permet vraiment de se plonger dedans, je trouve, et de mettre un peu tout le monde à égalité. Enfin, on découvre vraiment une nouvelle histoire tous ensemble, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette.
Mais tu vois, le côté mythique, on en avait pas parlé ensemble, mais je suis un peu d'accord. Et il y a un moment quand quand Mando, il rencontre...
Pas trop spoilé.
Oui, c'est vrai, on est dans la partie non spoil. Mais ça... Alors, quand Mando rencontre un personnage, à un moment, il lui parle, donc je vais pas dire de nom et tout, mais il lui parle des Mandalorians en disant, mais vous, les Mandalorians, vous êtes réputés pour être les légendes de je sais pas quoi. Enfin, il lui parle comme... Enfin, il ne dit pas ça exactement, mais la manière dont il en parle, on a l'impression que c'est les Mandalorians, une légende, une espèce mythique. Et ça m'a fait... Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que l'histoire en elle-même, on a l'impression que ouais, il y a un petit... Je sais pas, effectivement, si mythique, c'est le bon mot. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il joue vraiment dessus, grâce à ces petits dialogues. Mais on en reparlera, du coup, dans peut-être en privé, pour pas spoiler, en tout cas pas dans cette partie, mais... J'aime bien ton analyse.
Mais en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment fait accrocher, parce que ça apparaît dès le premier épisode, cette dimension-là, et donc je me suis vraiment plongée dedans. Et après, effectivement, tout n'est pas parfait, L'ensemble est un petit peu décousu parfois. Ça m'a déstabilisée au premier visionnage, même si du coup, pour me préparer la saison 2 et préparer cet épisode, je me la suis revue. Donc, je ne l'avais pas revue depuis la sortie il y a un an. Et j'ai vraiment apprécié ce deuxième visionnage et j'ai plus apprécié certains moments où j'avais failli décrocher au premier visionnage. Mais voilà, donc c'est pas parfait, mais du coup, ça donne envie de voir la suite. On se dit, ils ont essayé plein de choses dans cette première saison. Je pense qu'ils vont peut-être faire le tri entre ce qui marche et ce qui marche pas pour la suite. Donc ça donne vraiment, vraiment envie de voir la suite. Et comme je disais, moi, je la conseille vraiment à tout le monde. Bon, les fans de Star Wars, je pense qu'ils vont s'y retrouver. Mais oui. Même ceux qui ont peur, justement, que ce soit trop du fanservice et que ce soit pas accessible aux autres. Le fanservice, il est hyper présent et il est satisfaisant pour les fans. Il est là pour ça. Mais ne pas reconnaître toutes ces références adressées aux fans ne gêne pas, en fait, la compréhension de l'histoire. C'est une histoire assez simple, hein, dans le fond. Donc ça, je trouve ça chouette que ce soit accessible à tout le monde, quoi. Voilà pour mon avis.
Très bien. Il serait peut-être temps de passer du coup à la partie un peu plus avec spoiler, un peu plus analyse.
C'est parti.
Et pour commencer cette partie avec spoiler, donc on va faire un résumé rapide, hein. On vous promet, on va pas raconter les 8 épisodes de la saison pour ceux qui l'ont vu il y a longtemps, donc à la sortie, et qui ont tout oublié. C'est-à-dire, typiquement, moi, devant chaque saison 2 ou saison 3 d'une série que j'ai déjà vue. Et d'ailleurs, je trouve ça très très bien, maintenant Netflix, ils mettent un petit récap. Quand tu lances une saison 2 qui vient de sortir, ils te mettent automatiquement 5 minutes de récap de la saison 1, qu'est-ce qui s'est passé avant. Et je trouve ça top. Ils pensent à ceux qui ont des mémoires de Dory. Du coup, l'histoire. Donc, on a Mando qui est le meilleur chasseur de primes de la guilde, un groupe de chasseurs de primes, en gros, qui reçoit une nouvelle cible de la part d'un client mystérieux. De toute évidence, un vestige de l'Empire tombé 5 ans plus tôt. Il se trouve que la cible est un bébé, alors âgé de 50 ans, oui, mais un bébé quand même, d'une espèce du coup qui vieillit beaucoup plus lentement que les humains. Et Mando, il s'attache à ce petit bébé, à cette adorable créature, qui on a bien compris, hein, c'est bébé Yoda, qui n'est pas Yoda, on va le redire à chaque fois. Bon, il s'attache à cette créature qui en plus maîtrise la force et l'a sauvé la vie une fois, donc... Voilà, après avoir remis l'enfant au client, finalement, il est pris de remords et il décide d'aller libérer et de s'enfuir de Navarro,
ouais, c'est la planète où ils sont.
C'est
ouais.
ça. Mm. Et donc, il s'enfuit avec tous les chasseurs de primes à ses trousses, mais sauvé, enfin, aidé quand même des Mandaloriennes qui, ouais. eux, se cachent. Mais pareil, on en reparlera plus tard. J'ai l'impression de dire beaucoup, on en reparlera plus tard à chaque fois quand même. Faut que j'arrête. Bref, il s'enfuit de justesse avec bébé Yoda. Et du coup, le nouveau papa et son bébé errent dans la galaxie pendant 3 épisodes, qui paraissent plus ou moins longs, suivant les épisodes intéressants ou pas. Ils sauvent un village de pêcheurs de krill, tentent de trouver des contrats de chasseurs de primes sur Tatooine, traînent avec une bande de rascals de l'espace, que Mando va finir par prendre au piège d'ailleurs. Enfin bref, il se passe plusieurs petits trucs dans leur
péripétie.
Péripétie, périple.
Ouais. Donc on arrive aux deux derniers épisodes qui sont les plus denses de la série. Donc on retrouve Greef Karga, le chef de la guilde. J'arrive jamais à me souvenir de son nom. Heureusement que je l'ai écrit parce que c'est vraiment un personnage où je n'arrête pas d'oublier son nom. Mais pourtant, il est quand même pas mal présent. Mais bref.
Donc ouais, Greef... il a un nom compliqué, ils ne le disent pas beaucoup.
Ouais, je pense qu'il... Mais de toute façon, il y a beaucoup de personnages, soit on apprend leur nom que... bien plus tard, soit ils le disent carrément, quasiment jamais, enfin bref. Donc, le chef de la guilde rappelle Mando pour lui demander de l'aider à bouter les impériaux hors de Navarro. Mando rassemble sa Dream Team qu'il a rencontrée lors des 4 premiers épisodes, donc notamment Cara Dune, une ancienne soldate d'élite de l'Alliance Rebelle, Quill, un sage huguenote, je sais pas comment on dit, huguenote, ouais, qui l'a rencontré dans les deux premiers épisodes, et IG-11, un ancien droïde assassin que Quill a reprogrammé pour soigner et protéger. Donc, c'est vraiment une super petite équipe qui revient sur Nevarro. Ouais. Mais évidemment, ils sont pris au piège par le grand méchant Moff Gideon, un ancien officier de l'Empire qui était en fait celui qui tirait les ficelles derrière le client qui avait demandé à retrouver bébé Yoda. C'est à ce moment-là qu'on apprend le nom de Mando quand même, donc Din Djarin.
Je trouve qu'il a un beau nom.
Ouais, j'aime bien, donc je pense qu'on peut l'appeler de Din ou Din Djarin maintenant. Il faut qu'on s'habitue peut-être un peu, je ne sais pas si ils vont se mettre à l'appeler Din maintenant, je ne sais
question.
Pas. On verra. Malheureusement, Quill est tué, IG-11 se sacrifie, donc on perd quand même une partie de l'équipe. Gideon, lui, est momentanément mis hors course, mais il survit. Et on finit sur Din qui fait le serment de ramener l'enfant à son peuple et d'être son père en attendant. Voilà où on en est.
Exactement. Du coup, pour commencer, on va parler un peu de la place de The Mandalorian dans Star Wars, c'est-à-dire quand est-ce que ça se passe et les références qu'on a pu y trouver, ou les références les plus flagrantes. Donc déjà, quand est-ce que ça se passe? Bien, l'histoire se déroule 5 ans après le retour du Jedi, donc l'épisode 6 de la saga, et 25 ans avant le réveil de la Force, donc l'épisode 7, l'épisode de la saga Disney, saga tant décriée.
Oui, donc du coup, on est vraiment à l'époque où la Nouvelle République est en train de se mettre en place. Et on voit clairement que c'est pas si facile de mettre en...
on comprend bien.
À la fin du Retour du Jedi, on a l'impression qu'il faut juste tuer l'Empereur pour que l'Empire s'effondre. On se rend compte qu'il y a des vestiges de l'Empire qui restent présents pendant un certain temps. Et notamment sur la bordure extérieure, là où se déroule la série, hein, donc c'est cette espèce de banlieue de la galaxie un peu sauvage qui est toujours difficile à contrôler pour un pouvoir central, que ce soit pour l'Empire ou pour la Nouvelle République. Donc voilà pour le contexte politique de où on en est.
Au niveau des références, donc on vous conseille fortement, c'est l'épisode 8, je crois, du making-of.
Ah oui, donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé du making-of, mais en plus, du coup, évidemment, des 8 épisodes de la saison, Disney Plus a sorti une série qui s'appelle les making-of The Mandalorian, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement.
Oui, c'est ça, le making-of Mandalorian.
Parce que je crois qu'en VO, c'était Gallery, je ne sais pas quoi. Mais bref, 8 épisodes de making-of, effectivement. Thématiques plus ou moins qui sont très intéressants, ça fait un gros contenu un making of à suivre, mais effectivement il y en a un ou même plusieurs, mais il y en a un en particulier qui parle beaucoup de toutes les références aux autres films et aux animés tout le fanservice en fait.
C'est vrai. Et c'est le numéro 8, si on ne se trompe pas. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Moi, je ne les ai pas tous vus. Alors, on fait juste un petit point making-of vite fait. Je ne les ai pas tous vus parce que je m'attendais un petit peu à un making-of comme Frozen 2,
ouais,
que j'ai adoré ou que j'ai même pleuré devant, donc, pour vous dire. Et là, j'étais un peu déçue du coup. c'était moins bien. C'était vraiment des épisodes très thématiques et où ils parlent beaucoup. Mais où il parle beaucoup a posteriori, il raconte un peu comment ça s'était passé et effectivement il y a des choses très intéressantes, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de longueur et des fois t'es là, oui bon c'est bon, allez enchaîne ou montrez-nous des images, c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment regarder chaque épisode, ce qu'il peut vous apporter, et la regarder différemment. C'est ce que toi tu m'avais conseillé, Marjo, et je pense que c'est plus intéressant dans ce sens-là plutôt que de les enchaîner. Et là,
Les enchaîner, c'est un peu trop lourd. D'ailleurs, c'était sorti un épisode par semaine aussi, hein, c'était pas sorti tout d'un coup.
D'accord.
Et donc là, c'était plus digeste. Mais ça fonctionne autour de tables rondes, en fait, où ils blablatent beaucoup et où de temps en temps, on voit des images. Et c'est très... Ils parlent entre eux et c'est pas forcément hyper accessible non plus. Hein. Des fois, ils utilisent leur jargon ou leur... on sent qu'ils savent de quoi ils parlent les uns l'un ou l'autre, mais ils font pas... Je pense qu'ils oublient de temps en temps un peu qu'ils ont un public, mais... Donc c'est pas forcément
j'ai l'impression.
Toujours hyper accessible. Après, il y a des épisodes meilleurs que d'autres sur les 8, mais on en reparlera plus tard. Mais par contre, effectivement, au niveau contenu, on apprend... on apprend beaucoup de choses quand même, c'est sûr.
C'est vrai. Et du coup, bah, on va parler de quelques références qui nous ont marquées. Donc moi déjà, la carbonite... Carbonite ? Oui, ça se dit comme
ouais.
ça, hein.
Ouais,
oui, dans l'épisode 1, donc forcément, dès qu'on commence par ça, dans les 10 premières minutes, je me suis dit « Ah, oh, trop marrant ! C'est génial ! Ils utilisent ça encore !» Et du coup, voilà, j'ai parlé du côté fanservice, hein, je pense que les petites touches comme ça, c'est un peu fait exprès, parce que ouais. c'était pas obligatoire, mais quoi qu'en vrai, ça rentre, hein, ça,
bah,
ça colle. Mais...
C'était déjà bien lié à Boba Fett, puisque c'est la,
oui,
c'est la technique de Boba Fett pour ramener ses prises.
Oui, mais du coup, je trouve ça cool qu'il l'ait gardé, entre guillemets.
Ouais, ouais. Et là, en plus, on sent qu'il y a une évolution, parce qu'on a l'impression que c'est quand même... C'est un peu la version de poche, puisqu'il l'emmène, il l'a dans son...
Oui.
Alors que dans l'épisode 5, t'as l'impression... En plus, quand il congèle du coup Han Solo, ils sont même pas sûrs qu'il va survivre. Là, Mando, on a l'impression que franchement, ça lui pose pas trop de problèmes, quoi. Donc,
Non, bah ça a évolué, les techniques ont évolué, ça s'améliore. Autre référence, moi, qui m'a marquée, bon, c'est forcément dans un épisode que j'ai pas du tout aimé, l'épisode 6, les X-Wing, trop bien, je sais pas, ça m'a mis des frissons, j'étais trop contente de voir des vaisseaux, hein, c'est pas non plus la folie, mais j'étais trop contente de les retrouver.
Mais ouais, trop cool cette scène. Et puis le petit fun fact, c'est que du coup les trois pilotes qu'on voit, c'est trois des réalisateurs des épisodes de The Mandalorian,
c'est
dont,
trop marrant.
Encore une fois, Dave Filoni, il est partout. Voilà.
Il est partout. Autre petite référence, le propulseur dorsal des Mandalorian, que du coup Jango Fett utilise aussi dans lors de son duel contre Obi-Wan dans l'épisode 2. Donc du coup là, le fait qu'ils en fassent vraiment tout un... Je sais pas, qu'ils sacralisent un peu cet objet,
ouais.
J'ai trouvé ça assez sympa, assez touchant, ça m'a bien plu ça.
Comme si c'était lié un peu à un rite de passage d'avoir ce truc. Je sais plus, il lui donne un nom en plus un peu épique, genre The Rising Phoenix, je sais plus quoi. Mais...
Je sais plus.
Un truc comme ça. Il y a Phoenix dans le nom, mais les ailes du Phoenix, je sais plus.
Il fallait le mériter d'avoir ça.
C'est ça.
Et alors, dernière référence, tu m'as fait rire quand on en a parlé. Alors, je ne l'ai pas vu, du coup, j'allais te le demander, et toi, tu me dis que tu ne sais pas non plus. On a un petit... Comment on peut le déterminer ? Une espèce ?
Créature, ouais.
Une créature, Salacious Crumb, qui est présent dans l'épisode 6. Et j'ai lu qu'il était présent dans la série. Et du coup, je me le rappelle pas.
Premier épisode, ou le premier ou le troisième, je ne sais plus. Donc en fait, c'est la créature qui est avec Boba Fett... Boba Fett, pouf. Avec Jabba le Hutt dans
du coup, oui,
dans
l'épisode 6. Oui, ça, je me rappelle 6, de lui.
C'est lui qui fait... Voilà, qui rigole
et qui
un peu
doit, alors si je me souviens bien, même c'est lui qui doit raconter des blagues et s'il arrête de le faire rire, il meurt, quelque chose comme ça. Moi, c'est peut-être moi qui ai lu ça dans un.
Ouais, je pense que c'est un truc qui rajoute. Ouais, effectivement, je pense que ça doit être un. Mais c'est pas dans le film, il me semble pas. Mais bref,
non,
oui,
non,
c'est,
ouais.
c'est ce truc-là. Et, et je sais plus si c'est dans l'épisode 1 ou 3, un des deux de The Mandalorian, on voit en fait une de ces créatures en cage. Non, au début, on en voit une sur une broche qui est morte et qui est en train de se faire griller.
C'est bien
et
ça,
après, on envoie un autre dans une cage qui voit son ami, probablement, qui est en train de se faire griller pour être mangé et qui a l'air complètement en détresse. Et c'est... Voilà. C'est...
D'accord. C'est marrant. En même temps, il était tellement insupportable que c'est bien fait pour lui.
Ah là là. Mais ouais, mais dans le genre référence un peu obvious, il y a évidemment tout l'épisode 5 qui se passe sur Tatooine.
Oui, là, j'étais trop contente.
Ouais, on a vraiment des vues de Tatooine qui sont exactement les mêmes que dans l'épisode 4,
ouais.
Voilà. La cantina, on retourne dans la cantina,
oui.
Et encore un petit signe que les temps ont changé. La cantina dans l'épisode 4 était interdite aux droïdes, puisqu'ils interdisent l'accès, ouais, c'est 3PO est choqué. Et on voit maintenant que c'est plus le cas, il y a des droïdes qui se baladent, et il y a même un droïde au comptoir. Donc, les révolutions.
Du coup, il n'y avait pas la petite musique de la cantina. C'est dommage quand même, non ?
Non, non, il n'y avait pas. Et en plus, voyant en plus les talents de Ludwig Göransson qui a fait la musique, on espère qu'il aura l'occasion de faire ce genre de petite musique.
Ça serait sympa.
Et on a même le jeune chasseur de primes avec qui Mando va bosser, qui est assis à exactement la même place que Han Solo. Donc voilà.
Ça, c'est gros clin d'œil.
Une autre référence, cette fois-ci dans l'épisode 4, c'est les AT-ST, AT-ST impériaux, donc les espèces de machines qui, genre autruche, là, qui marchent sur deux pattes, qu'on voit dans la bataille épique contre les Ewoks. Et c'est cette machine-là qui attaque le village que vont protéger donc, Mando et Cara Dune. Et donc vraiment, là, ça fait vraiment un parallèle assez fort, puisqu'à nouveau, on a les Ewoks, d'un côté les Ewoks dans la forêt, et de l'autre côté, ce village au milieu de la forêt aussi, avec un décalage de capacité d'armes entre des arcs et des flèches et cette capacité de feu des impériales. Donc c'est vraiment un fort parallèle, encore une fois.
Mais, c'est vrai.
J'ai bien,
en parlant de vaisseaux, il y a quelque chose qui m'a perturbée. Alors, je suis désolée, je suis vraiment nulle. Je connais pas le nom de tous les vaisseaux. Les vaisseaux de l'Empire, la boule avec les...
TIE Fighter, ouais.
TIE Fighter, c'est ça, effectivement. Bon, ça, j'étais contente de voir comment il s'ouvrait et qu'il se posait au sol.
Oui, carrément.
Et Thibaut m'a dit... Alors, c'est pas un immense fan de Star Wars, mais il les a déjà tous vus... Et généralement, il a une bonne mémoire. Il m'a dit, pourtant, dans les films, dans les 4, 5, 6, on les a déjà vus s'ouvrir et ils ne s'ouvraient pas comme ça. Et du coup, j'étais là. Ah, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus, moi.
Je ne me souviens plus dans les 4, 5, 6. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est dans l'épisode 7. On voit quand Poe et Finn s'échappent du croiseur ou je sais plus où, et ils volent un TIE Fighter et il est pas replié. Enfin,
c'est peut-être dans celui-là où... Non, parce qu'il m'a dit, on le voit se poser, les gens sortir, et bon, sais plus.
Bah, dans ce truc-là, ils prennent une échelle ou une passerelle, je sais pas, mais en tout cas, les ailes sont pas repliées du tout, puisqu'ils sont même reliés à un espèce de câble, etc. Donc.
Mais c'est un peu étrange, alors, parce que du coup, pourquoi est-ce qu'avant, ils étaient super bien, voilà, ça peut se déplier et tout, et puis dans le 7, c'est plus possible, on est obligé de grimper à une échelle.
C'est un peu pas logique, c'est peut-être pas le même modèle exactement.
Peut-être.
Enfin, c'est
mais possible, non, mais j'étais trop contente de dire « Oh, on a une explication de comment !» parce que je me posais la question. Et en fait...
Parce que je me souvenais plus de l'effet replié, etc. Et quand je l'ai revu là, la semaine dernière, quand je l'ai vu arriver, le TIE Fighter, et qu'il allait se poser, je me suis dit, putain, j'ai jamais vu un TIE Fighter se poser autre part que sur un vaisseau impérial. Et je me suis dit, mais comment il va faire pour sortir? Il n'y a pas d'échelle, comment il va faire pour sortir de son vaisseau? Et tout d'un coup, je vois les trucs sur le pied, je dis,
Non, mais c'est trop marrant que ça nous a fait tilter, tu vois, la même scène, j'adore.
Mais bon, ça fait partie des petits plaisirs qu'on peut trouver. Donc, il y en a plein d'autres, des détails, des easter eggs. Ouais. Franchement, il y en a qui vont parler que aux fans hyper experts, parce que même quand j'ai vu les making-of, il y en a plein. Ils en ont parlé de plein qui m'étaient complètement passés au-dessus de la tête.
Ah, pareil.
Mais ça gêne pas. Enfin, certes, c'est du fanservice, mais comme je disais, c'est du bon fanservice, parce que ça prend pas le dessus sur l'intrigue de fond, mais ça fait plaisir, quoi, de reconnaître, etc. Et puis bon, on sait que les fans de Star Wars aiment analyser tout dans les détails, retrouver tous les plus petits détails et en faire toute une montagne, toute une mythologie autour. Donc c'est très satisfaisant, je pense, pour ces gens-là aussi, dont on ne fait pas totalement partie, même si je suis pas... J'aime beaucoup Star Wars, j'ai vu d'autres choses que les films, mais je ne me considère pas comme autant hardcore que certains.
Non, moi non plus. Je pense qu'on reste soft.
Mais bon, maintenant, on va quand même parler du cœur de la série. Donc, Papa Mando et Baby Yoda.
Ça marche, tiens. Pourquoi est-ce qu'on a tous fondu devant, justement, Papa Mando et Baby Yoda? J'aime bien dit comme ça. Alors déjà, moi, je pense que la relation papa-enfant, ça marche souvent très, très bien. C'est vrai que bizarrement, ça marche un peu mieux que la relation maternelle. Je pense que c'est... parce que dans l'esprit des gens, une femme, ça, c'est là pour être... Enfin, c'est horrible ce que je dis, mais ça fait très sexiste, mais c'est vraiment dans l'esprit de beaucoup de personnes. Une femme, c'est fait pour être maman, alors qu'un homme, c'est, ça s'occupe moins de son enfant, entre guillemets. Et je trouve qu'on le voit beaucoup dans les magasins, etc. Quand on voit les rayons pour les bébés, il y a écrit « tout pour les mamans ».
Ouais.
Ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, le compte Twitter Pépite Sexiste référence justement tous ces cas sexistes dans les magasins, dans les médias, etc., dans le marketing de manière générale, et c'est quand même très flagrant.
Ouais, du coup, ça renforce le fait que du coup, oh là là, un homme qui prend un rôle paternel, c'est tellement mignon.
Exactement.
C'est vrai que du coup, c'est un effet collatéral du patriarcat, hein, c'est vrai.
Totalement. Non, mais voilà. Mais bon, après, bon, bah, ça marche, hein, tant mieux. Oui. Mais c'est vrai que je pense que ça vient un petit peu de là. Après, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais... Et puis alors là, en plus, je pense que ça marche d'autant plus qu'on a un Mando qui est d'apparence quand même assez froid au début, comme on voit... pas vraiment son visage, du coup, au début, forcément, il fait un peu peur, comme Django, Boba Fett, ils avaient un tendance un peu à imposer leur style et à faire peur, entre guillemets. C'est quand même un chasseur de primes, je veux dire le méchant chasseur de primes, avec des gros gros guillemets, hein, c'est... parce qu'on le voit pas faire des choses méchantes, mais voilà, c'est quand même un chasseur de primes, dès le début, il se bat, etc. Et du coup, le méchant qui se répand parce qu'il, voilà, il devait livrer le bébé, finalement, il est pris de remords, il va le chercher. Bon, bah, franchement, c'est sûr que ça a ému tout le monde, ça fonctionne. Moi, la première, je tombe dedans, quoi.
Bah ouais. Non, mais moi, exactement pareil. C'est vraiment le bébé qui rappelle à ce Mandalorian qui, en plus, dont on voit jamais le visage, qui est très... c'est vrai qu'on l'a pas précisé, ça, mais quand même... Le fait qu'on ne voit jamais son visage, à part une fois à la toute fin,
oui.
Ça renforce ce côté froid et presque déshumanisé. Et donc, du coup, ça, le réhumanise, ça fait un contraste hyper fort de le voir s'occuper d'un bébé et de voir, de deviner ses expressions.
C'est... Complètement. Et du coup, bah, concernant Mando, moi perso, bah, comme on vient de dire, hein, il avait son casque. Moi, j'avais très peur de ne pas m'attacher à lui, parce que ce qui fait m'attacher au personnage, c'est forcément ses émotions, et 90% des émotions, ça se passe sur le visage, le regard. Et je me suis dit, oula, avec un casque, bon, comment je vais réussir à m'attacher à lui? Peut-être que je vais juste avoir mon coup de cœur pour bébé Yoda, et puis voilà. Et au final, grosse surprise, on arrive facilement, c'est bizarre, hein, mais à comprendre ses émotions, ses envies, et on s'attache beaucoup à lui, j'ai l'impression. Personne ne m'a dit, oh non, je l'aime pas, enfin vraiment, je pense qu'il a fait l'unanimité. Et j'ai réalisé pourquoi en regardant le making-of, parce que comme c'est expliqué, il joue beaucoup sur l'immobilité de Mando. C'est-à-dire que, effectivement, quand j'ai écouté ça dans le making-of, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, il bouge jamais. Et du coup, il a beau bouger un tout petit peu la tête sur le côté, et bah bim, on comprend ce qu'il veut dire, ce qu'il ressent. Je trouve que c'est incroyable. Et du coup, tous ces mouvements ont du sens. Et c'est une interprétation fascinante. Je connaissais pas cet acteur parce que bah, moi, j'ai pas vu... Game of Thrones, je suis désolée.
Oui, parce que du coup, c'est Pedro Pascal, on n'a pas encore mentionné son nom, mais voilà, Pedro Pascal qui était Oberyn Martell dans Game of Thrones. Enfin, je pense que la plupart des gens l'ont... Il a fait d'autres choses à part Game of Thrones, mais la plupart des gens, en tout cas, en plus, les spectateurs de The Mandalorian le connaissaient en tant qu'Oberyn Martell, qui a été vraiment... Enfin, quand on parle de chouchou, de personnage chouchou, Oberyn Martell, il apparaît que dans une saison... Et genre, il a mis tout le monde à genoux, quoi. Enfin, c'est vraiment un des personnages ultra favoris dans Game of Thrones. Et parce qu'il a un charisme de malade. Et donc là, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même type de personnage. Et du coup, je pense que pour les fans de Pedro Pascal, comme moi, on était un peu frustrés de ne pas voir sa tête, quoi. Parce qu'en plus, il est plutôt pas mal. Mais bon, ça marche hyper bien, quoi. C'est
mais du coup, pour l'anecdote, effectivement, peut-être que du coup, dans Game of Thrones, il a beaucoup de charisme et qu'il n'a pas du tout la même tête que dans The Mandalorian. Parce que dans The Mandalorian, on le voit une fois. Donc moi, je ne connaissais pas hein, Pedro Pascal. J'avais déjà été voir à quoi il ressemblait et tout, mais je l'ai vu dans rien du tout. Par contre, donc Thibaut, mon copain, a regardé The Mandalorian avec moi. Et quand il a enlevé le casque, je lui ai dit « Ah, c'est lui, là, tu vois l'acteur, je sais que tu le connais, t'as vu Game of Thrones. » Et là, il a regardé et il me fait « Bah, je le reconnais pas, je sais pas qui c'est. » Je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment un bon acteur, alors hein, il est...
Ouais. Bon, alors, il faut dire qu'il est sacrément amoché quand il retire le casque,
bien
du
sûr.
Coup, c'est...
Bien sûr.
Mais ouais, non, je comprends. Et puis surtout, en fait, même sa voix, parce que bon, il a un accent en particulier, mais le fait que sa voix soit un peu modifiée par le casque, on ne reconnaît pas le ton qu'il avait et la voix qu'il avait dans Game of Thrones non plus. Enfin, vraiment, il a pris une voix très particulière pour le Mandalorian. Et c'est, d'ailleurs, ça fait partie de son gros boulot aussi sur ce personnage-là, c'est de faire sa voix, quoi. Donc, c'est... Mais du coup, peut-être juste aussi mentionner... qu'il avait quand même deux doublures qui le remplacent dans plusieurs scènes, sans qu'on puisse savoir lesquelles, puisqu'il est toujours masqué.
Mais même les acteurs disaient, on ne savait pas des fois contre qui on jouait.
C'est ça.
Ça m'a fait rire.
Donc bon, c'était principalement pour les scènes de cascade, mais parce que du coup, c'est Latif Crowder et Brendan Wayne, qui est d'ailleurs le petit-fils de John Wayne, donc un lien avec le monde du western.
Ouais,
mais c'est des cascadeurs, ces deux acteurs-là, mais on voit dans les making-of qu'ils ont bossé ensemble sur les gestuels, etc. Et ça marche super bien, quoi. Donc super travail d'équipe
de
ces trois-là, quoi.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans le making-of à un moment, qu'au tout début, quand ils ont voulu faire les premiers tests avec le costume, ils l'ont fait tester à une personne lambda qui n'est pas du tout acteur, etc. Et il y avait Pedro Pascal et les réalisateurs qui étaient là et qui regardaient un petit peu ce que ça pouvait rendre dans le décor et tout. Et en fait, c'était une catastrophe. Ils disaient que ça ressemblait à rien, qu'il n'y avait aucune émotion, qu'il n'arrivait même pas à marcher, à s'asseoir, à rien faire. Et que par contre, quand ils l'ont mis à Pedro Pascal, tout de suite, ça a fait la différence, ça a matché direct. Et comme quoi, ils expliquaient que effectivement, le costume fait beaucoup, mais ce n'est pas juste une personne dans un costume, c'est bel et bien un acteur. Et que là, les doubleurs, ils ont fait également un très beau travail parce qu'on n'a même pas la différence entre à chaque fois quand on change d'acteur ou de doubleur.
Ouais. Je voulais aussi parler du fait que j'apprécie que c'est un personnage, ce Mandalorian, c'est un personnage d'action, clairement. Enfin, il est présent dès la première scène, il est genre hyper badass, etc. Mais il galère quand même. Dans toutes ces scènes de combat, il galère et il n'est pas surpuissant et il n'a pas le dessus dans toutes ces scènes de combat. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment... ça le rendait hyper humain, quoi. Le fait qu'il se fait jarter par les Jawas, il se prend vraiment, il se fait démolir par les impériaux. Enfin,
il est obligé d'avoir Bébé Yoda qu'il sauve face au Midhorn. Non, mais...
Ouais. Mais ça le rend beaucoup plus attachant que s'il était surpuissant, quoi. Donc c'est sûr que ça le rend attachant. Mais pour finir sur cette relation avec l'enfant, the child, vraiment, je trouve, ça se joue dans des toutes petites scènes qui, a priori, servent pas à grand-chose dans l'histoire. Ça sert juste à montrer ce lien père-fils, en fait, et de manière... hyper touchante et drôle, quoi. Je pense notamment à toutes les scènes dans le cockpit de son vaisseau, le Razor Crest, et avec la petite boule du levier qui est un élément un peu récurrent, qui se transforme en jouet et qui symbolise un peu « Bon, bah ok, je te donne un petit bout de mon vaisseau pour que tu t'amuses avec, etc. Enfin, » c'est trop mignon, quoi.
C'est chou.
Et on voit aussi que Mando, il devient de plus en plus affectueux au fur et à mesure des épisodes, et de plus en plus il a ses réflexes de protection vis-à-vis de Baby Yoda qui on sent que ça devient vraiment le centre de son monde, quoi, cette petite créature. Et la manière dont ça s'est représenté de manière très subtile sans qu'il le dise, c'est vraiment vraiment chouette, quoi.
Oui, sans que ce soit too much, franchement, c'est vraiment bien fait.
Ouais. Bon, il faut qu'on parle de ce fameux Baby Yoda, quand même.
On a dit du coup qu'il avait 50 ans,
oui.
Mais que c'était encore un bébé. Et du coup, j'ai regardé, Yoda, il est mort à 900 ans. Donc, je me suis fait mon petit calcul dans ma tête, on sent la prof de maths. Je me suis dit que si Yoda, il meurt environ, on va dire à 100 ans humain, parce qu'il a l'air très très vieux quand même, hein.
Ouais.
Ça voudrait dire que Baby Yoda aurait 5 ans. Mais je trouve que c'est bizarre qu'à 5 ans, il parle pas, il marche à peine.
Ouais, pareil.
Mais bon, après...
Ça me pose aussi question. Alors, j'aurais jamais essayé de faire le calcul. Il faut vraiment... Comme quoi, il faut toujours une prof de maths dans l'équipe pour penser à ce genre de choses. Mais pareil, je me dis, mais il sait pas parler. Du coup, ça me pose vraiment la question de quand est-ce qu'on va voir bébé Yoda commencer à parler. J'ai hâte, du coup.
Bah oui. Et alors, alors, je vais raconter une petite anecdote qui n'a rien à voir, mais qui est intéressante, plus ou moins. Enfin, vous me direz si c'était intéressant après. Je suis en train de lire le livre Sapiens, je ne sais pas si tu connais, qui est un livre qui a fait fureur il y a quelques années.
Ouais.
Et ils expliquent en fait que dans les espèces animales, la plupart des animaux, c'est pas plus tu vieillis, plus tu prends du temps à, en tant que bébé à être indépendant, tu vois. C'est pas parce que, par exemple, une espèce va vivre, avoir une espérance de vie de 15 ans qu'elle va être bébé pendant 2 ans, alors qu'une espèce qui va avoir une espérance de vie de 5 ans, le bébé va être dépendant pendant un mois. Ça n'a rien à voir. Et il disait que chez les humains, on était l'espèce où les bébés avaient le plus besoin de leurs parents le plus longtemps. C'est-à-dire qu'un bébé à 1 an, il ne sait toujours pas manger tout seul, marcher tout seul, se débrouiller tout seul. Alors que les autres espèces animales arrivent à se débrouiller quand même relativement rapidement. Et en fait, dans ce bouquin, ils expliquent, donc il y a des études, hein, donc après c'est, il renvoie vers les articles qui parlent de ça, qu'en gros, c'est à partir du moment où l'homme s'est mis à se mettre debout et à marcher sur 2 jambes, les hanches des femmes se sont rétrécies, et du coup, le bébé, si on voulait qu'il soit, entre guillemets, fait correctement, il aurait été trop gros pour pouvoir passer et sortir du corps de la femme, et donc il sort un peu, en fait, prématuré. Et ce serait pour ça qu'un enfant humain est bébé pendant longtemps.
D'accord. Intéressant.
Voilà, bon, ce livre est très intéressant. Et ouais. Du coup, ça m'a fait directement penser à ça, parce que je me suis dit, bon, ce bébé Yoda, il a quand même 50 ans, c'est-à-dire que pendant 50 ans, il faut qu'il ait quelqu'un qui le nourrisse, qui s'occupe de lui, qui comprenne ce qu'il dit, alors qu'il parle même pas. Et du coup, ça m'a fait vraiment penser à ce chapitre du livre que j'ai lu, en me disant, eux, ils doivent avoir vraiment une morphologie étrange pour faire des bébés.
Ouais, non mais ça c'est vraiment, je pense, un grand... Parce qu'on ne sait rien de cette espèce, on ne sait même pas comment elle s'appelle cette espèce. Mais on a beau connaître Yoda depuis les débuts de Star Wars, jamais on sait de quelle espèce il fait partie. On sait juste qu'il est très très vieux, donc ça fait sens qu'un enfant... Enfin, même si effectivement... c'est pas, on ne peut pas penser que par rapport à l'âge humain... l'âge d'humain, mais c'est, ça fait sens quand même. Mais effectivement, on se pose quand même vachement de questions de qu'est-ce qu'on va apprendre sur cette espèce. Est-ce qu'on va voir une planète avec plein de Yoda?
du coup, tu vois, moi j'espère, ça, c'est un peu bizarre, hein, mais j'espère qu'on n'en saura pas trop. Ouais, parce que, en fait, dans les. J'ai des livres, j'ai des encyclopédies des personnages de Star Wars, tu vois, typiquement chez moi. Effectivement, dans tout, il y a écrit espèce et le nom de l'espèce, et Yoda, il y a écrit espèce inconnue. Et je trouve ça tellement mystique, tellement mystérieux, que j'adore que Yoda, ce soit vraiment un mystère à lui tout seul. Ouais. Et du coup, j'espère qu'on n'en saura pas trop, trop non plus, tu vois. Je trouverais que ça gâcherait un peu ce côté mystérieux.
Ouais, bah là, on a encore ce mystère qui est vraiment pas du tout élucidé, parce qu'on sait pas pourquoi... Moff Gideon et compagnie voulaient absolument le récupérer. Il y a des théories comme quoi c'est peut-être pour le cloner, parce que il y a un des mecs qui fait des tests sur lui, qui a le symbole, ouais. Symbole de Kamino, qui s'est occupé des clonages pour l'armée des clones. Mais bon, on n'en sait rien pour l'instant.
J'ai lu cette théorie, je l'aime bien, mais après.
Ouais, mais on ne sait pas. Enfin, on sait qu'il est très, très, très puissant avec la force. Donc, on se dit, bon, bah, vu que Yoda l'était aussi, peut-être que c'est quelque chose de propre à cette espèce-là. Moi, je pense que j'espère presque, même si ça serait hyper triste, mais j'espère presque que c'est un peu le dernier de son espèce, tu vois. Enfin, qu'il s'est passé quelque chose et que du coup, il est tout seul. Enfin, que je sais pas.
Ouais,
enfin,
peut-être.
Effectivement, j'ai du mal à imaginer qu'on verra... Enfin, j'espère pas qu'on verra... Ce serait trop bizarre. Une planète pleine de Yoda.
Non, j'aimerais pas. Franchement, j'aimerais pas. Bon, on verra. Hein, mais...
Ça peut être bien fait, je sais pas, mais...
Oui, bon. Mais du coup, moi, j'ai pas vu le making-of sur comment ils ont fait, du coup, la marionnette. Toi, je sais que tu l'as vu.
Oui, alors bon, déjà, évidemment, c'est une marionnette, bon, ça se voit, qui a quasiment pas d'effet numérique. Donc, c'est... Et ils ont beau, en fait, expliquer dans le making-of comment ils ont réfléchi au design, parce que vraiment, c'était leur objectif, hein, de le rendre le plus mignon possible. Mais quand même, enfin, objectivement, ça reste quand même un alien avec plein de tout ridé, avec des grandes oreilles. Enfin, il n'est pas... Enfin, en fait, c'est difficile à comprendre de manière objective comment il... Pourquoi ce bébé Yoda est aussi adorable? Bon, évidemment, c'est les grands yeux, le tout petit nez, cette bouche toute pincée. Mais en fait, c'est vraiment difficile, même s'il l'explique dans le making-of, de comprendre vraiment la sorcellerie derrière cette ouais, réussite.
C'est ça, c'est la magie.
Mais oui, mais puis c'est trop drôle dans les making-of en fait, de voir qu'à partir du moment où il y a cette marionnette du Baby Yoda qui est sur le plateau, mais tout le monde est obsédé par cette marionnette, quoi, par ce personnage. Et tout le monde ne peut pas s'empêcher, même si tout le monde sait que c'est une marionnette, tout le monde ne peut pas s'empêcher de se comporter comme s'il était vivant, quoi. Enfin, parce qu'en plus, il bouge. Enfin, ils ont réussi vraiment à faire un animatronique qui a des expressions hyper fines. Et donc, c'est vraiment, c'est vraiment fascinant, quoi, de voir ça. Et l'effet que ça a eu sur nous derrière l'écran, c'était version plus 1000 pour ceux qui étaient sur le plateau avec cette marionnette, quoi.
Non, mais rien que typiquement tout à l'heure, j'étais à la FNAC, j'ai flashé, j'ai craqué devant la marionnette, j'ai appuyé sur la tête, il bougeait la tête, il bougeait les oreilles, les petits yeux, il me regardait, j'étais là, oh, je suis en train de craquer devant une marionnette, Charlie. C'est quoi ça? Je l'ai mis en story sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, il y a des stories de bébé Yoda.
meilleure pub.
Bon, du coup, et si on parlait des autres personnages?
Oui. Parce qu'il y en a une belle galerie, quoi.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le point positif, c'est qu'il y a une belle diversité et que chaque personnage trouve a du sens, du caractère. Et chaque personnage a sa petite touche et apporte quelque chose.
Ouais, donc je pense qu'on peut commencer par une de nos chouchous. Bah oui. Cara Dune. Cara Dune, la guerrière.
Mon grand coup de cœur. Ça fait trop du bien de voir un personnage féminin, fort, une vraie guerrière, mais qui reste quand même... En fait, c'est qu'il reste quand même féminine, tu vois, à sa manière. Enfin, tu sens que ce soit... je sais pas comment expliquer. Je sais pas. Je saurais pas expliquer. En fait, c'est un peu étrange ce que je vais dire, mais tu vois, il y a des personnages forts féminins où on a l'impression qu'on est en train de les transformer un peu en hommes pour donner du pouvoir. Et t'en as d'autres où, au contraire, on les féminise à mort, comme Wonder Woman. Et c'est quelque chose que j'ai pas trop aimé dans le film Wonder Woman. Ce côté exagéré sur sa sexualité... alors qu'il n'y en avait pas besoin. Et là, je trouvais que Cara Dune, elle était forte, une guerrière, mais qu'elle gardait tout ce qu'elle avait de féminine en elle. Est-ce que c'était clair?
Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Moi, en fait, ce que j'apprécie, c'est tout simplement que c'est jamais adressé le fait que ce soit une femme. Enfin, c'est pas ce qui compte dans ce personnage-là, quoi. Mais comme aucun des autres, enfin... Le Mandalorian, il prend le rôle de... On dit qu'il prend le rôle de papa, mais en fait, il prend aussi le rôle de maman. Enfin, c'est la même chose. Et puis, il y a d'autres personnages qui sont neutres. On va parler de Quill. Lui, c'est beau être un personnage masculin. Il est neutre, quoi. Enfin, ça pourrait être un féminin ou masculin, peu importe. Et c'est ça que j'aime bien. Enfin, c'est avec Cara Dune, c'est effectivement le fait qu'elle est totalement à égalité, en fait, avec Mando. Alors, ils le montrent de manière physique dans leur quand ils se battent l'un contre l'autre, quand ils font un bras de fer, c'est pour vraiment montrer que elle est aussi forte. Enfin, ils sont vraiment à égalité. Et même on a un doute, on se dit, on se demande si c'est pas elle qui est quand même plus forte. mais c'est ça qui compte, quoi. C'est vraiment juste ça. Et puis bon, l'actrice Gina Carano, c'est une athlète, hein, c'est une championne de MMA à la base, donc voilà.
ils en parlent pas mal dans le making-of aussi, c'est assez intéressant. Ouais.
Donc vraiment, j'adore ce perso. J'étais un peu déçue par l'actrice récemment, de ce que j'ai vu passer, des choses qu'elle a dit sur Twitter, on ne s'étendra pas dessus, tout ça, mais voilà. C'est pas le genre de personne forcément à suivre sur Twitter. Vaut mieux profiter de son personnage, profiter qu'elle fait un bon travail et en rester là.
Mince, on a trop dit là, maintenant je suis curieuse.
Ouais, bon voilà, j'invite pas forcément à aller voir, mais voilà, juste je voulais le signaler parce qu'elle a fait pas mal de vagues et je pense qu'elle a déçu pas mal de personnes, donc je préfère le signaler. Mais vraiment, enfin, la manière dont elle incarne Cara Dune, c'est impeccable. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce personnage, c'est la manière dont il est écrit, comme on l'a dit, et ce qu'on apprend sur son background, le fait qu'elle vienne d'Alderaan. Ça, on l'apprend dans le dernier épisode ou l'avant-dernier.
Ouais, ça, c'est triste.
Donc on se dit, en fait, ça donne du sens en fait à son passé de soldat d'élite de l'Alliance Rebelle et le fait qu'elle garde en fait cette profonde haine des impériaux. Enfin, ils ont détruit sa planète, quoi. Donc c'est hyper fort, je trouve. Et voilà, quoi, j'étais déçue parce que j'ai adoré la manière dont elle était introduite dans l'épisode 4. J'étais déçue qu'elle reste pas avec le Mando à la fin de l'épisode.
Ouais, moi aussi. Mais j'étais trop contente de la voir revenir à la fin, en vrai.
Oui, oui, oui. Et donc, je pense qu'on la verra plus dans la saison 2, donc
j'espère. Je suis contente. On verra bien. Du coup, deuxième personne, Greef Karga, donc celui dont on ne se rappelle jamais du nom.
C'est ça.
Qui est le chef de la guilde.
Ouais, qui est, bah mine de rien, comme on disait, c'est un personnage qu'on voit quand même pas mal. Mm-hmm. Mais ouais. Franchement, j'ai du mal à m'attacher, en fait, pour l'instant, à ce personnage. Il me déplaît pas, hein. Enfin, je suis pas...
Non, mais...
Quand il est là, il est marrant, mais...
Ouais, je suis contente de le voir, mais je suis pas attachée plus que ça à lui.
Je pense que c'est parce qu'on n'a pas du tout de backstory pour lui. Pour l'instant, on sait pas quel est son passé, on sait pas quelles sont ses motivations vraiment, à part être chef de la guilde. Mais du coup, j'ai du mal à avoir de l'empathie. Tu vois, si ça avait été lui qui mourait dans cette saison, ça m'aurait fait beaucoup moins de peine que pour l'autre personnage dont tu voulais parler, Quill. Enfin, dont je voulais parler, en tout cas.
Oui.
Qui, pour le coup, lui... Bon, Greef Karga, on est sûr, on le reverra. Par contre, Quill, non. Malheureusement.
Bah alors, je trouve ça tellement triste, moi, sa mort. Enfin, j'ai pas compris. Je me répète. J'ai pas trouvé triste sa mort, justement. J'ai trouvé trop rapide. J'ai trouvé triste la façon dont ils l'ont fait mourir.
Ouais.
Parce que je me suis servi à boire, et je lève la tête, et là, Thibaut, il me dit, t'as raté la mort de machin. Je dis, quoi ? Ben, je dis, mais attends, je me suis juste servi un verre d'eau.
Ouais, on le juste voit. En fait, on voit pas le moment où il meurt. On le voit mort après, quoi. Mais c'est... Oui. Et du coup, moi, j'étais persuadée qu'il était pas mort.
Oh.
Et c'est vraiment l'épisode d'après où vous le voyez qui fait la petite tombe et tout. Je suis genre, oh non, il est vraiment mort, quoi. C'était trop triste. Et
c'est dommage.
J'ai trouvé que c'était un peu du gâchis parce que c'était vraiment un personnage hyper intéressant. J'adore ce qu'il représente, enfin son passé d'esclave, son côté profondément pacifiste, et c'est le seul, tu vois, sinon c'est tous des guerriers, c'est tous des brutes, quoi, et même Cara Dune, surtout Cara Dune, mais du coup, lui, il est vraiment, c'est celui qui défend la voie pacifiste, quoi, et il a ce petit côté Yoda, en plus, donc en plus dans ses tics de langage, le « I have spoken », qui est devenu un peu... pareil, un mime, quoi, mais c'est...
Il fait rire quand il dit ça, j'aime bien.
Mais j'aime bien, quoi, je trouve que c'est vraiment le personnage qui fait penser à Yoda, et je pense qu'il faut toujours un vieux sage dans l'équipe, et c'était, c'était lui, quoi, donc c'est triste.
C'est dommage. Mais je voulais juste reparler de Greef Karga, deux petites minutes.
Oui.
En fait, du coup, moi, je savais pas, je l'avais pas reconnue, mais c'est dans le making-of, quand ils ont fait tout un truc comme quoi, oh, ils étaient trop contents de la voir, qu'au départ, il devait être masqué, mais finalement, on pouvait pas ne pas voir son visage, mais l'annoncer au casting, j'étais là, mais c'est vraiment un acteur connu. Puis alors, du coup, je regarde, Carl Weathers, ça me dit rien le nom, mais ça peut-être me disait vaguement quelque chose. Et en fait, c'est vrai que c'est le grand méchant, entre guillemets, mais dans Rocky, c'est Apollo Creed, dans Rocky, celui qui se bat contre Sylvester Stallone. Et là, je me dis... Ah. Et donc je pense qu'effectivement on va le revoir parce qu'ils étaient très contents de l'avoir au casting, comme quoi c'était vraiment un grand nom pour eux. Et tu vois, au final, peut-être que c'est parce qu'on est trop jeune ou parce que bon, je les ai vus, les Rocky, j'ai adoré ça, mais je l'avais même pas reconnu, quoi.
Non, j'ai jamais vu Rocky, j'avoue.
Ah,
donc,
bon.
Du coup, ça me parlait pas du tout. Effectivement, je comprenais pas. Moi, je dis bon, ok, c'est quelqu'un de connu, mais je
Bah voilà, c'est Apollo dans Rocky.
Très bien. Mais non, c'est sûr, on le reverra. Puis du coup, je pense que la dynamique Greef Karga et Cara Dune pourrait être assez rigolote parce qu'on sent qu'ils vont former un duo, quoi. Donc ça peut être intéressant.
C'est vrai. Alors, avant-dernier personnage dont on aimerait parler, c'est IG-11, l'ex-droïde assassin. Et sa voix, alors je ne le savais pas, je l'ai appris du coup pendant le making-of, c'est Taika Waititi.
Oui,
que tout le monde connaît, j'espère, quand même.
Qui réalise aussi, qui est un des réalisateurs des épisodes, et il fait notamment le tout dernier épisode, donc le moment de gloire d'IG-11 d'ailleurs.
Oui, ah bah oui, c'est vrai, il fait cet épisode là du coup.
Ouais.
J'avais pas percuté. Et du coup, il est aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, on sait jamais, le réalisateur de Thor Ragnarok, qui je trouve est l'un des meilleurs Marvel, après ça n'engage que moi.
Ouais, non, j'adore ce film aussi. Et récemment, il a fait Jojo Rabbit aussi, qui est...
Oui, c'est vrai, qui était pas mal du tout.
Ouais, mais bon, on reconnaît son humour, en fait, dans la première scène du dernier épisode, entre les deux boulets, là, les deux soldats de l'Empire qui ont capturé bébé Yoda.
C'est vrai. Ah oui, c'était...
Et c'est complètement absurde comme scène. Enfin, c'est vraiment un humour complètement décalé. Et ça, c'est du pur Taika Waititi, quoi. Complètement.
Et d'ailleurs, alors, je crois que c'est officiel, mais j'ai un petit doute. Il était pressenti pour faire le futur film Star Wars, qui devait se passer, du coup, longtemps avant la saga Skywalker. Enfin, en tout cas, quelque chose de totalement nouveau. Il me semble que c'était officiel, que c'était lui qui allait réaliser. Hein. C'est sûr.
Ouais, c'est sûr. Et il va continuer à bosser sur des longs métrages Star Wars, mais sur quoi ça va être, je crois que c'est pas encore.
Bah, j'ai hâte en tout cas.
Ouais, carrément.
Et du coup, on disait que lui, il faisait la voix de IG-11, qui est un droïde assassin qui travaille pour la guilde. Et pour ceux qui ont une bonne mémoire, on l'a déjà plus ou moins aperçu, hein, c'est pas vraiment lui, mais c'est son ancêtre, on va dire, entre guillemets. Dans l'épisode 5, on voit le droïde IG-88, si je ne me trompe pas, qui était également chasseur de primes. On le voit sur le pont de l'exécuteur de Vador avec Boba Fett. Et alors, j'ai lu que c'était son grand rival. Je me suis dit, bon, ça, ils ne le disent pas trop dans le film, je crois, ou alors j'ai une petite mémoire. Voilà, mais il paraît que c'est son grand rival, tous les deux.
Ces droïdes assassins, je crois qu'ils sont devenus aussi un peu mythiques, enfin, un peu comme Boba Fett. Bon, pas autant que Boba Fett, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est dans les animés, ils réapparaissent régulièrement, en fait, ces droïdes assassins, parce que c'est vraiment, ils sont imbattables, quoi. Enfin, ils sont réputés pour être juste des machines à tuer, quoi.
C'est ça.
Alors qu'ils ont un design quand même très bizarre, quoi. Enfin, quand tu les vois apparaître, ils ne font pas forcément menaçants. En plus, la manière dont ils marchent, tu sais, tout saccadé et tout. Mais en fait, ils sont hyper efficaces, quoi.
C'est vrai.
Moi, je trouve qu'il a vraiment un arc génial, en fait, ce personnage. Bon, j'ai toujours eu un faible pour les droïdes dans Star Wars. Je ne sais pas pourquoi. mais du coup, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de IG-11. Toute cette idée en fait du droïde assassin qui est reprogrammé donc par Quill, ce qui a du coup été aussi une raison pour laquelle j'adore Quill, c'est toute cette scène où il reprogramme IG-11 et où il lui réapprend tout pour le transformer, alors que son cœur, sa raison d'être, c'était de tuer, et maintenant il a réussi à le reprogrammer pour que ça soit soigné et protégé, quoi. C'est super beau, je trouve, comme idée. Et j'adore toutes ces scènes de combat, et alors notamment quand il traverse le village, on va dire, avec bébé Yoda, avec cette musique totalement épique, et où il tire dans tous les sens, et où bébé Yoda est j'adore, quoi, c'est vraiment tellement, c'est jouissif, quoi. Et j'aime bien, du coup, le duo qu'il formait avec Mando, enfin, je trouve que ça marchait vachement bien. En plus, Mando qui a cette haine viscérale pour les droïdes et qui finalement apprend à lui faire confiance, parce qu'en plus, IG-11 lui sauve la vie quand même, puis alors sauve la vie à tous en se sacrifiant. Donc je suis quand même deg qu'ils doivent se sacrifier, même si c'est beau. Je trouve que là, pour le coup, c'est un arc complet, et contrairement à Quill où c'est un peu frustrant. Là, je trouve que IG-11, ça a fait un arc complet, ça fait sens qu'il se sacrifie à la fin. Mais quand même, j'aurais voulu qu'il reste avec l'équipe. Non, c'est vrai, je suis d'accord.
Bonne analyse. Du coup, dernier personnage dont on voulait parler.
Moff Gideon.
Je sais pas comment on prononce
en Moff Gideon.
Ouais. Bon, alors moi, je t'avoue qu'il ne m'a pas hyper convaincue, mais ça m'a fait rire parce que je me suis dit, dans Star Wars, les méchants, ils ont l'habitude de pas me convaincre à première vue. Alors, j'ai l'habitude. mais par contre, s'il y a quand même ce petit sabre noir, mais on en parlera plus tard,
oui.
Qui m'a intriguée.
On en parlera plus tard.
Mais voilà, on aura l'occasion de le mentionner.
Ouais. Bah enfin, moi, voilà. j'ai pas... Enfin, j'aime bien son look, avec sa cape et tout. Je trouve qu'il, bon, c'est le look traditionnel des officiers de l'Empire. Hein, mais bon, ça en impose toujours, je trouve. Même si au début, j'ai trouvé ça un peu bizarre, j'aime bien la manière dont il parle. Et de manière très... je sais pas. Enfin, tout son monologue de méchant, où il raconte tout ce qu'il sait sur tous les personnages, si c'est hyper cliché, je sais pas,
non,
j'aime
oui,
bien.
Cette scène, j'ai bien aimé. Non, cette scène, j'ai bien aimé. Non, moi, ce qui me dérange, c'est encore une fois, on a le méchant un peu capricieux. Tu vois, enfin, je sais pas, il y avait un truc...
Bah, je sais pas s'il est si capricieux que ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu le manipulateur. Enfin, il tirait les ficelles depuis le début. Mais bon, franchement, on le voit que dans un épisode et demi. Je pense qu'on aura vraiment beaucoup plus... l'occasion de le voir développer par la suite, quoi. Mais pour l'instant, ça reste assez... On n'en sait pas assez, je pense, pour qu'on puisse en faire notre méchant préféré. C'est sûr que non.
Et je crois que je disais dernier personnage, mais je crois qu'il y a un dernier personnage que tu voulais,
oui.
Tu voulais parler,
bon,
tu voulais faire un petit hommage.
C'est vraiment un personnage très secondaire, on le voit que dans 3 scènes. Mais je l'aime trop, c'est l'armurière, donc celle qui forge qui est dans la forge des Mandalorian et qui forge toutes les armes et les armures des Mandalorian. Et je l'aime trop, quoi. Elle est tellement classe.
Ouais,
elle
je suis
est
d'accord.
Vraiment trop, trop cool. Et franchement, j'étais persuadée qu'elle allait y rester, hein, parce que ça faisait vraiment un peu genre, je me sacrifie, je reste, je veux pas quitter la forge, du coup j'y reste. Et en fait, non, quoi. Elle est déglingue, quoi. Et elle survit, quoi. Enfin, elle est... Bon, on a l'impression, en tout cas. Donc,
oui, on va avoir. On verra bien.
Donc, je sais pas si je pense... Je suis pas du tout sûre qu'on la reverra, parce qu'elle avait vraiment un rôle particulier dans cette première saison. C'était seulement celle qui apportait justement cet aspect un peu... ce cœur de la culture mandalorienne. Elle a un peu ce rôle de prêtresse, en fait. C'est une armurière prêtresse, quoi, pour les mandaloriens. Mais je sais pas, je suis pas sûre qu'on la reverra, parce qu'elle avait vraiment un rôle qui, je sais pas si ça fera sens dans la suite, quoi. Mais j'aimerais bien.
On verra bien.
Voilà.
Et donc maintenant, on va passer à une toute autre partie, qui est l'histoire des Mandaloriennes. Donc, c'est la partie un peu historique. Et là, on a notre experte Marjo. Donc moi, je vais commencer juste par qu'est-ce qu'on savait sur les Mandaloriennes si on a vu que la saga Skywalker. J'ai envie de dire pas grand-chose. Mais bon, on sait que... ouais, vraiment pas grand-chose. On sait que Jango Fett, après l'assassinat de ses parents, a été élevé du coup par un groupe de guerriers légendaires qui sont appelés les Mandaloriennes, et qu'il est devenu ensuite l'un des meilleurs chasseurs de primes de la galaxie, ce qui a incité le peuple de Kamino, je vais pas me tenter dans le nom parce que j'ai un petit doute, à le prendre comme modèle pour leur armée secrète de clones. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, on avait vu cette armure dans les épisodes 4, 5, 6, portée par Boba Fett, qui était du coup un clone de Jango Fett, qu'il a élevé comme son fils. Donc voilà.
Ouais.
C'est-à-dire, du coup, on ne savait pas beaucoup de choses sur les Mandalorian, puisque Jango Fett et Boba Fett n'étaient pas vraiment Mandalorian.
Peut-être que Jango l'était, parce que... Bon,
oui, peut-être. Bah oui, parce qu'au final, Mandalorian, c'est ce qu'on va expliquer un peu. C'est pas, t'es pas né Mandalorian, tu le deviens.
Oui.
Donc si, je pense que Jango, il l'était.
Mais Boba Fett,
j'ai des doutes. Hein.
Bah Boba Fett, on a l'impression qu'il a jamais grandi avec des Mandalorian,
non,
à part son
jamais.
Père, entre guillemets. Mais il y a toute cette idée, je crois qu'elle a été pas mal développée quand même, que toute l'armée des clones, en fait, est vraiment élevée avec quand même une certaine philosophie mandalorienne, puisque les mandaloriens sont quand même connus pour être les meilleurs guerriers de la galaxie, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est pas une race, du coup, mais c'est un peuple qui se... où sa culture est fondée dans la guerre, quoi. Donc du coup, c'est pas pour rien qu'ils ont pris un Mandalorien, en tout cas quelqu'un qui a été élevé par des Mandaloriens, pour créer cette armée et aussi l'entraîner, parce qu'il y a aussi un rôle d'entraînement, quoi. Donc, mais c'est vrai, c'est un peu, c'est quand même, c'était quand même déconnecté de. On voit jamais les Mandaloriens en tant que peuple, quoi, dans les films. Ça, c'est ce qui est développé dans les animés. Enfin, peut-être dans d'autres choses, mais moi, je connais que les animés. J'ai pas lu de romans, lu de BD, donc je parle que de ce que je connais, mais qui en apporte déjà pas mal, quoi. Donc, en fait, on apprend notamment que les Mandaloriens, comme je disais, ça a toujours été une culture fondée sur la guerre et qu'il y a plusieurs milliers d'années, il y avait des grandes guerres entre les Mandalorians et les Jedi. C'est un peu des espèces d'ennemis héréditaires. Et en fait, ça reste marqué dans les esprits des deux côtés, en fait. Et d'ailleurs, l'armurière en fait référence à un moment. Elle mentionne cette race de sorciers appelée Jedi. Voilà, c'est un peu leur ennemi héréditaire, quoi. Donc c'est à ça qu'elle fait référence. Et en fait, c'est pour contrebalancer la force, donc qui donnait quand même un avantage aux Jedi, que les Mandaloriens sont vraiment devenus des experts dans l'art de la guerre et surtout dans les armes, grâce du coup au Beskar, qui est un métal qu'on trouve que sur Mandalore, qui est leur planète, et qui est en fait le seul métal qui résiste au sabre laser. Donc c'est pour ça aussi que ce métal, il lui donne aussi ce côté un peu sacré, c'est que c'est un peu leur arme ultime contre leurs ennemis héréditaires que sont les Jedi, quoi. Voilà pour vraiment le côté très ancien. Et ensuite, on fait un gros saut dans le temps pour arriver un peu avant la guerre des clones. Donc, un peu au moment des films, quoi. Donc, à cette époque-là, la société mandalorienne s'organise en fait en clans associés à des maisons qui sont dirigées par des grandes familles. Donc, même si c'est pas une race, tu vois, il y a un peu ce côté grande famille. Et c'est là qu'apparaît la série de femmes centrales dans l'histoire mandalorienne que j'apprécie beaucoup, qui est Satine Kryce, qui est en fait la leader d'une de ces factions politiques, d'une de ces grandes familles. Et en fait, ce personnage de Satine, elle est l'opposé en fait de l'héritage de son peuple. Elle est profondément pacifiste et elle veut transformer en fait la société mandalorienne. Et elle réussit à prendre le pouvoir sur Mandalore et à amorcer en fait cette révolution pour faire de Mandalore cette nation neutre et pacifiste qui veut pas prendre parti dans la guerre des clones notamment. Et petit aparté pour vous donner encore plus envie d'aller voir The Clone Wars qui explore tout ça, Satine et Obi-Wan ont une histoire en commun. Voilà, je ne spoil pas. Mais il se pourrait que ce soit des amants d'enfance, on ne sait pas, mais voilà. Oh. Et voilà, on va dire, je spoil, Satine, c'est l'amour de jeunesse d'Obi-Wan, voilà. Mais ils sont trop mignons.
Ça donne envie de regarder.
Mais bon, si je parle de ça, c'est surtout que parce qu'il y a une faction séparatiste en fait, qui veut continuer à défendre les valeurs guerrières traditionnelles. Et cette faction, elle prend le nom de Death Watch. Et dans cette faction, il y a notamment Bo-Katan, brillante guerrière, qui est la sœur de Satine. Et en fait, elle fait partie, elle est opposée à sa sœur, quoi. Elle fait partie de Death Watch. Et je mentionne Death Watch parce que c'est eux qui viennent sauver le petit Din Djarin. Dans les flashbacks qu'on voit, où le village de Din Djarin est attaqué, etc. C'est pendant la guerre des clones, où c'est clairement des droïdes qui les attaquent. On voit des Mandaloriens venir le sauver et ils ont le symbole de Death Watch sur leur armure. Vraiment, on le voit très clairement, ce symbole, et ceux qui connaissent les animés, Death Watch est quand même une partie importante de certaines histoires de ces animés. Donc on les reconnaît, on sait que c'est Death Watch, quoi. Donc c'est assez intéressant de savoir que Zinjarin a été élevé du coup par Death Watch, puisque c'est la partie, on va dire, traditionnelle, traditionnaliste même des Mandalorian. Et donc à la fin de la guerre des clones, Satine a finalement été renversée par Death Watch, et les Mandalorian en fait s'allient à la République contre les séparatistes dans la guerre des clones, et il y a cette grande bataille mythique du siège de Mandalore, qui est d'ailleurs, je pense, est mentionnée dans les films. Je ne suis pas sûre à 100%, mais je crois qu'il est mentionné dans l'épisode 3, probablement. Et en fait, on voit cette bataille dans The Clone Wars, donc le siège de Mandalore. Et en fait, elle est citée par Moff Gideon dans le dernier épisode, quand il parle de The Night of Thousand Tears, la nuit des mille larmes. C'est cette bataille, en fait, qui mentionne. C'est pour ça que je me dis... Faut peut-être expliquer ce qu'à quoi ouais. Il fait référence. Mais ça lui donne un côté très mythique, donc c'est pas mal. Même si on sait pas ce que c'est, on se dit « Oh là là, il s'est passé quelque
oui,
chose. »
Oui, ça va pas choquer.
Et donc ensuite, on passe à la période qui est couverte par Star Wars Rebels, donc qui correspond à avant l'épisode 4. En fait, il faut savoir que dans cette série, une des héroïnes centrales de la série, elle est Mandalorian. Donc elle s'appelle Sabine Wren. Donc c'est plus Satine, c'est Sabine. Mais, peut-être qu'il y a un lien, on ne sait pas. Il n'y a pas eu d'explication pourquoi elles ont un nom aussi proche, mais il y a des théories. Mais voilà. Et donc à ce moment-là, donc évidemment vu que là une des héroïnes principales, elle est mandalorienne, évidemment Mandalore a droit à une place importante et à des arcs narratifs que centrés autour de Mandalore. Et donc on sait que l'Empire a rapidement pris le contrôle de Mandalore en fait, à partir du moment où il y a eu la naissance de l'Empire. Et certaines factions mandaloriennes ont d'ailleurs décidé de collaborer avec Palpatine assez rapidement. Et l'Empire en fait exploite les mines de Beskar. Donc ça, c'est dit dans la série, puisque le fameux Beskar que récupère Mando, il est marqué du symbole de l'Empire. Donc ça vient de cette époque-là, où l'Empire exploite Mandalore. Et on sait même qu'ils installent une académie impériale pour recruter des gens de Mandalorien pour rejoindre ses rangs. Et notamment Sabine, le personnage de Sabine, faisait partie de cette académie et s'est finalement échappé pour rejoindre la résistance. Et en fait, dans la série, il y a toute une résistance interne, une espèce de guerre civile qui se met en place sur Mandalore pour se libérer du joug impérial, en fait, et retrouver son indépendance. Et ça finit, en fait, sur... Bo-Katan, donc la sœur de Satine, si vous avez tout suivi, qui prend la tête de cette résistance grâce à Sabine. En fait, Sabine aide Bo-Katan à prendre la tête de la résistance. Voilà, on s'arrête là dans l'histoire de Mandalore dans les animés et on reprend dans Mandalorian du coup.
C'est hyper intéressant, moi ça me donne vraiment envie de voir les animés, tu vois.
Moi je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait il y a plein de personnages féminins en fait qui sont hyper centraux.
Oui. C'est ce que j'allais dire.
Bon, certes, j'ai peut-être fait exprès de ne pas parler des personnages masculins, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont un rôle important, mais pas autant, et puis sont moins marquants, je trouve, que Satine, Bo-Katan et Sabine, quoi. C'est vraiment des personnages marquants, quoi. Donc voilà où on en est.
Ok, et du coup, c'est à partir de là que la série Mandalorian prend le relais.
Dans The Mandalorian, du coup, ce qu'on apprend, et c'est ça qui le rend aussi la suite de notamment Star Wars Rebels, c'est que l'Empire a mené une grande purge sur Mandalore. Et ça, c'est vraiment répété plusieurs fois dans la série. Donc, ceux qui ont vu Star Wars Rebels, du coup, imaginent que ça doit être certainement la réaction au soulèvement qui avait été mené par Bo-Katan, Donc on imagine que ça n'a pas plu à l'Empire, ce soulèvement, cette résistance, et que du coup, ils n'y sont pas allés de main morte et qu'a priori, ils ont quasiment exterminé les Mandalorians en réaction à cet outrage de vouloir se libérer. Et du coup, bah, voilà, on sait que les survivants se regroupent en tribus clandestines. Donc c'est marrant qu'ils parlent de tribes. Donc c'est plus des clans et des maisons, maintenant c'est vraiment des tribus, quoi. Et qui se resserre vraiment autour de ce cœur spirituel de la culture mandalorienne avec le credo This is the way, qui est quelque chose de nouveau, hein, qui n'était pas dans les animés. Donc tout ce credo This is the way, le fait de pas avoir le droit de retirer son casque, ça c'est complètement nouveau. Dans les animés, ils peuvent retirer leur casque. Enfin, c'est juste des casques, ils peuvent les retirer, les remettre. Il y a pas de, c'est leur casque, non. Ok, mais ils ont pas. Il n'y a pas, c'est pas du tout aussi extrême, quoi, dans ce credo qu'on voit dans la série, quoi.
Et du coup, bah, maintenant qu'on a vu toute l'histoire, je suis sûre que vous avez appris plein de choses, dites-nous encore dans les commentaires sur nos réseaux sociaux. On va parler des autres points making-of, on a un peu parlé du making-of, parce que c'est vrai que ça, on a appris pas mal de choses avec et ça nous a assez intéressés. On va parler des points qui nous ont marqués justement dans ces making-of, et on va commencer avec The Volume.
The Volume.
C'est bizarre à dire. Non, mais ouais. J'ai un problème avec les mots anglais de The Mandalorian aujourd'hui. Hein. Ça va pas du tout. Alors, comment décrire ça pour ceux qui n'ont pas vu le making-of ? En gros, c'est une manière de filmer où on va pas juste filmer dans un décor. Bah, ça, c'est l'option A, on filme dans le décor. Voilà. Bon, quand on filme dans Paris, c'est facile. Hein. On va pas cette fois-ci non plus filmer comme le livre de la jungle, par exemple, dont le making-of est beaucoup passé sur les réseaux sociaux, où il y a uniquement des écrans verts.
Qui a été fait par John Favreau, d'ailleurs. Hein, qui est...
Exactement, en plus. Donc, ce n'est pas ça non plus. En gros, c'est une salle dont les murs et le plafond sont constitués d'écrans LED. Et que, contrairement en fait, à l'écran vert, où ça va être en post-production qu'on va avoir le décor, là, ça projette réellement le décor. Et la projection est synchronisée avec la caméra pour en fait donner de l'illusion du relief. C'est ouais. Juste, en fait, incroyable. C'est absolument, allez voir. C'est l'épisode numéro 4 du making-of. Si vous êtes un petit peu intéressé par voilà, les techniques de tournage, et tout, etc., c'est juste, mais fou, en fait.
Ouais.
C'est vraiment incroyable. Enfin, voilà, on est toutes les deux. Je pense qu'on a été choquées de voir tout ça.
Ouais. Et c'est marrant je me souviens, quand j'avais vu cet épisode du making-of, il y a ma mère qui était là avec moi. Et genre, je pense qu'elle n'a pas, parce que même si elle aime les making-of... Je pense que puis je crois qu'elle, je suis même pas sûre. Si elle avait vu The Mandalorian déjà, mais moi j'étais genre, mais tu te rends compte? Mais c'est fou! Mais tu te rends compte? Et tu genre oui, genre. Tout le monde n'a pas le même niveau de d'excitation face à.
Non. Alors que moi j'étais là, waouh, c'est fou! Et c'est marrant parce que c'est vrai qu'on en parlait dans notre dernier épisode sur Christopher Nolan. On disait que lui il détestait les écrans verts et donc il avait trouvé une autre méthode pour ne pas avoir d'écran vert. Bon là c'est encore plus high-tech. Il n'y a pas d'écran vert non plus, mais alors on passe à un level supérieur. Ouais. Alors c'est ce qu'on disait après, effectivement, c'est pas parce qu'ils aiment que Jon Favreau n'aime pas les écrans verts, hein, comme on vient de le dire, c'est lui qui a fait le livre de la jungle. Ou là, même la jungle, ils l'ont fait en écran vert. Enfin bref. J'étais trop déçue quand même quand j'avais vu le making-of du livre de la jungle. Mais bon, de toute façon, c'est pas le sujet. Mais tout simplement pour simplifier le rendu réaliste de la lumière tout en ayant la liberté en fait, créative de la manipulation numérique. Et c'est ouais. Vrai que le rendu est juste incroyable.
Bah ouais, non mais c'est clair. Mais il explique dans le making-of à quel point c'est difficile d'avoir un rendu réaliste avec des écrans verts parce qu'il avait eu ce problème avec le livre de la jungle pour faire l'effet des ombres, etc.
Oui.
C'est hyper dur. Et donc du coup, ils ont réglé ce problème avec The Volume qui projette vraiment l'environnement. Donc du coup, les effets... C'est très difficile de deviner quelles sont les scènes qu'ils ont tournées en extérieur et quelles sont les scènes qu'ils ont tournées, parce qu'il y a quand même quelques scènes qu'ils ont tournées en extérieur, mais c'est, enfin, à l'image, enfin, c'est vraiment dur, ouais, avant de voir le making-of, de deviner la différence, quoi.
Et du coup, de ce qu'on voit dans le making-of, c'est qu'ils ont montré ça à George Lucas, qui avait l'air impressionné, lui aussi. Ouais.
Et que, j'aurais bien aimé avoir ça.
C'est ça, et qui disait que lui, c'était un peu son rêve, qu'il expliquait que plus tard, effectivement, montrer des paysages incroyables. On n'aurait pas besoin d'aller se déplacer en Tunisie, n'importe où, mais qu'on pourrait faire ça dans son garage. Et là, bah voilà, c'était le garage de George Lucas. C'est assez fou.
Bah ouais, ouais.
J'aime bien
ces... C'était marrant, surtout après que George Lucas ait quand même été un peu décrié par sa surutilisation des écrans verts dans les épisodes 1, 2, 3, mais parce qu'il avait envie de montrer, le truc le plus high-tech qui existait au moment où il a tourné les films au début des années 2000, quoi. Et s'il avait eu The Volume, il aurait utilisé The Volume, quoi, évidemment, quoi.
Exactement.
Mais c'était
deuxième point du making-of qui nous ont bien plu.
Oui, la musique.
Ah,
on en a déjà
incroyable.
Un petit peu parlé.
Oui, bah c'était difficile de ne pas en parler jusqu'à maintenant.
Ouais, mais Ludwig Göransson, ce génie, quoi. Bon, je sais qu'on lui a déjà rendu hommage dans notre review de Tenet, mais moi, c'est vraiment The Mandalorian qui me l'a fait découvrir, même si j'avais déjà entendu son travail sur Black Panther, mais j'avais pas forcément mis un nom sur sur ce travail. Mais là, maintenant. Maintenant, je l'idolâtre. Et, mais je trouve que c'est vraiment génial ce qu'il a réussi à faire parce que, comme on le disait au début de l'épisode, c'est, on sent l'influence Star Wars, mais ça ne ressemble pas à du John Williams, quoi. Et y a, c'est tout un mix de plein d'influences et des influences électroniques, des influences de... Il utilise... Alors, c'est ça qui est génial dans les making-of, c'est qu'on voit les instruments qu'il utilise et il utilise des instruments complètement... improbables et qui viennent de partout dans le monde et c'est trop bien quoi et du coup ça donne vraiment un mix qui est hyper intéressant et j'ai entendu une remarque qui je trouve est assez intéressante dans un des podcasts Star Wars préférés donc un podcast anglophone qui s'appelle What the Force que je conseille pour tous ceux qui sont à l'aise avec l'anglais et il parle en fait de la musique par rapport au fait que c'est un mélange d'instruments organique, donc de vrais instruments et d'instruments électroniques, que en fait c'est à l'image du personnage du Mandalorian que c'est avec son armure métallique et toutes ses gadgets électroniques qui sont représentés par ses instruments, ses synthés, etc. Mais qu'au cœur il y a vraiment l'homme en chair, en os et en sentiment, comme on voit avec son attachement à sa culture mandalorienne et puis évidemment à Bébé Yoda et que ça s'est représenté vraiment par tout le côté organique de la musique quoi et j'ai trouvé ça assez intéressant quoi de le penser comme ça c'est
non je suis d'accord c'est pas mal
et puis bon bah le making of donc là c'est l'épisode
7 oui je crois que c'est le 7 bon, de toute façon ça s'appelle la musique je crois
ouais c'est ça et en fait on voit son studio. Il est génial, son studio.
Son studio est génial. Lui, il est génial. On dirait vraiment le hippie qui vit dans son garage. Mais qui est passionné. Tu sens vraiment qu'il est passionné par ça, quoi.
Ouais. Ouais, il est à fond dans son truc. Et si non, vous n'avez pas...
On va en entendre parler encore. De...
Ouais, non, c'est sûr.
De lui.
Et vous pouvez aussi aller voir sur la chaîne YouTube de Star Wars, je crois, officielle. Il y a... On le voit, ils ont fait un espèce de clip où on le voit interpréter le thème de The Mandalorian et où ils ont fait toute une mise en scène où on le voit de temps en temps, il est dans son studio, puis tout d'un coup, il est dans The Volume. Ça vous permettra de tout comprendre en un, puisque vous verrez The Volume, vous verrez la musique, les instruments qu'il utilise, son espèce de synthé complètement taré, là, son grand mur avec plein de boutons qui clignotent et tout. On a l'impression que ça sort de Star Wars, ce truc, quoi. C'est fou. C'est assez fascinant, quoi.
Ouais.
Voilà pour Ludwig.
Dernier point making-of.
Oui, je voulais mentionner un truc qu'on voit dans le tout dernier épisode des Making of, l'épisode 8. C'est le fait qu'ils ont embauché l'association de fans, la 501e Légion, pour, en gros, qu'il y ait plus de figurants Stormtroopers sur la scène des deux derniers épisodes. Et ça m'a hyper émue, en fait, de voir les... Parce que c'est, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas la 501e Légion, vous les avez peut-être croisés dans des conventions, si vous êtes habitués aux conventions de pop culture en général ou de Star Wars en particulier, ils sont toujours présents en fait, parce que c'est une association mondiale, ils ont plein de relais un peu partout et ils sont présents en France aussi. Et en fait, c'est la plus grande association de cosplayers qui existe et ils sont spécialisés dans voilà, le costume de Stormtrooper et ils font plein d'actions caritatives aussi, enfin, ils font un boulot vraiment génial. Et là, vraiment, ils ont été appelés parce que bah, ils n'avaient pas assez de figurants pour avoir vraiment une impression d'armée de Stormtrooper. Et donc, de voir ces fans qui, du coup, rentrent littéralement dans l'univers, font maintenant littéralement partie de l'univers, je trouve que c'était vraiment un bel hommage et je trouvais ça hyper émouvant.
Ouais,
c'était chouette. Et en plus, bah, du coup, bah, non seulement c'était un chouette hommage pour eux, mais le rendu est génial, quoi. Enfin, c'était cool d'avoir une trentaine de Stormtroopers en plus à l'image,
complètement,
quoi.
Complètement. Du coup, on va passer rapidement maintenant sur nos scènes préférées. Je pense qu'on va aller assez vite là-dessus.
Ouais, parce qu'on a déjà mentionné pas mal de choses. Ouais.
C'est ça. Et moi, personnellement, en fait, j'ai pas vraiment de scènes préférées. Après, on disait qu'on adorait les scènes avec bébé Yoda. Bon.
Oui, je pense que si on voulait tricher, on disait qu'on pouvait dire que toutes les scènes avec bébé Yoda étaient nos préférées.
Voilà, exactement. Mais sinon, à part ça, non. Moi, je voulais juste dire que j'ai peut-être deux épisodes préférés, c'est-à-dire les deux derniers, que ouais. J'ai trouvé vraiment géniaux. J'ai trouvé ça vraiment top, le fait qu'on revoit toutes les personnes un peu qu'il avait croisées au cours des épisodes, et que ça fasse un petit peu, allez, je vais chercher mes copains, on revient en gang. Ça, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, j'ai trouvé ça aussi génial, contrairement aux autres épisodes, qui est vraiment un peu un fil conducteur, une histoire. Alors que dans les autres épisodes, chaque épisode était un peu... ils sont un peu liés les uns aux autres, mais pas trop quand même, assez indépendants. Et dans le 7 et le 8, j'avais vraiment, une fois que t'as vu le 7, t'as envie de voir le 8 pour avoir la suite. Et ouais. Ce côté-là m'a beaucoup plu.
Ouais, bah non, mais pareil, c'est clair. En gros, les trois premiers épisodes se suivent vraiment. Enfin, c'est un premier arc, on va dire. Ensuite, on a trois épisodes qui sont chacun complètement indépendants. Enfin, on change d'endroit à chaque fois. C'est une histoire qui a un début, un milieu et une fin, enfin, qui est contenue dans l'épisode. Et on n'a pas l'impression de faire avancer l'intrigue de fond, quoi. Enfin, on en est toujours au même point où le Mandalorian et bébé Yoda sont en fuite et ils sont poursuivis par des gens qui veulent récupérer le bébé, quoi. Donc, il y a ces deux derniers épisodes qui sont vraiment... qui reprennent, on a l'impression qu'ils reprennent là où on s'en était arrêté à l'épisode 3, quoi. Donc,
ouais.
C'est... Mais bon, dans ces trois épisodes, du coup, qui effectivement sont un peu à part, je voulais quand même mentionner l'épisode 4, parce qu'autant le 5 et 6, vraiment, en mon premier visionnage, j'ai eu du mal. Je les apprécie plus maintenant que je les revois. Mais premier coup, je dis, mais c'est quoi c'est... Pourquoi c'est aussi déconnecté du reste enfin,
c'est
trop bizarre.
Ouais, c'est ça, c'est le bon mot.
Ouais, et en fait, il y a quand même cet épisode 4, donc le premier, qui pourtant est un changement complètement d'ambiance, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est, je pense, un de mes épisodes préférés de la saison, parce que déjà, j'aime bien qu'on change d'ambiance, et surtout pour arriver dans une planète vivante, en fait, une planète verte, luxuriante, avec une forêt, etc., ce qui n'est pas du tout dans aucun des autres épisodes. Et je trouve que ça fait quand même partie de Star Wars d'avoir des planètes avec de la végétation, quoi, que ce soit pas que des planètes désertes. C'est bien. Donc, ça change. Et vraiment, j'ai aimé... ça continue à développer, en fait, le fait qu'ils font beaucoup référence au western. Et là, ça reprend un de mes tropes préférés des westerns qui vient à la base des sept samouraïs de Kurosawa, qui a énormément influencé après le western américain, notamment les sept mercenaires, qui du coup avec un groupe de mercenaires qui aident un village à se défendre face à des brigands, c'est vraiment quelque chose qui a été hyper, qui est devenu vraiment un motif hyper courant. Ça a même été repris dans un épisode de The Clone Wars, exactement la même histoire, donc c'était assez marrant du coup de le revoir dans Star Wars. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé quoi cet épisode, je trouve chouette, à part mais chouette.
Dernière scène que j'ai beaucoup aimée quand même. J'ai dit que j'avais pas de scène vraiment favorite, mais j'ai beaucoup aimé cette scène parce que ça va faire un beau lien sur nos attentes pour la saison 2. C'est la scène de Moff Gideon, Je suis sûre que je le prononce mal, c'est pas grave. Et le sabre sombre, je me suis dit, mais c'est quoi ce sabre? C'est trop stylé, c'est trop bien, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Et je sais que t'as quelques réponses.
Oui, parce que moi, quand je l'ai vu, quand j'ai vu cette scène, j'étais aussi genre, what? Mais quoi? Mais waouh, c'est trop stylé! Mais pas pour la même raison. ça a été en fait un choc et... un saut d'excitation de ma part parce que, bah, encore une fois, c'est quelque chose qui fait directement référence aux animés The Clone Wars et Star Wars Rebels, parce que ce sabre, il a toute une histoire en fait et qui est intimement lié au Mandalorian. Donc c'est pas pour rien qu'il est là, ce sabre. Donc déjà, c'est un sabre unique, hein, il n'en existe qu'un seul hein, qui ressemble à ça, déjà. Je pense qu'on pouvait s'en douter, mais c'est vraiment un truc unique. Et c'est un sabre qui a été créé il y a 1000 ans, donc 1000 ans auparavant, par un certain Tar Vizsla, qui est en fait le tout premier Mandalorian à avoir intégré l'ordre Jedi. Donc, si vous vous souvenez que je disais que les Mandalorians et les Jedi étaient un peu ennemis héréditaires, c'était quand même un événement important qu'un Mandalorian intègre l'ordre Jedi. Après ça, lors d'un énième conflit, parce qu'ils n'ont pas arrêté de se faire la guerre, hein, les Jedi et les Mandalorians, donc pendant un de ces énièmes conflits entre Jedi et Mandalorian, le sabre a été récupéré par la famille Vizsla et est devenu en fait une espèce d'Excalibur mandalorienne, en fait. En gros, c'est un symbole de pouvoir qui fait que celui qui manie ce sabre a la légitimité de rassembler tout le peuple mandalorien derrière lui, en gros. Et donc, en fait, il apparaît dans The Clone Wars, mais surtout dans Star Wars Rebels, où en fait, c'est Sabine qui le récupère, ce sabre, mais elle renonce en fait à prendre la tête des Mandaloriens et elle le confie à Bo-Katan, pour que ce soit elle qui prenne la tête du soulèvement contre l'occupation impériale dont on a parlé plus tôt. Donc en fait, sachant qu'il y a eu la grande purge entre les deux, qui a été Moff Gideon... Ouais.
C'est ça, on se doute qu'il a dû le récupérer pendant ce temps-là.
Bah on se doute, et c'est hyper fort en fait, symboliquement, que ce soit ce bourreau des Mandalorian qui le manie, quoi, qui en fasse son arme personnelle, quoi. C'est... Je me doute que... On le reverra par la suite. On reverra Moff Gideon avec le sabre sombre, le Dark Saber. Et du coup, je me doute aussi que Din Djarin sait ce que c'est que ce sabre. Enfin, oui, il a dû au moins en entendre parler, et si ce n'est peut-être le voir, vu qu'il faisait partie de ce Death Watch qui était avec Bo-Katan, du coup. Donc, je pense que ça va être un choc aussi pour lui, et ça le rend vraiment en colère de savoir que Moff Gideon a ce sabre. Donc je pense que ça va être un truc important pour les prochaines saisons. Je ne sais pas si ça va être directement dans la saison 2, mais je pense qu'il y a un moment ça va être important, quoi.
Ouais, et bah du coup, on va enchaîner, parfaite transition, sur nos attentes pour la saison 2. Et moi déjà, oui, effectivement, j'aimerais qu'on en sache plus sur ce sabre, sur l'histoire de Din, donc de Mando. J'aimerais vraiment que, comme ce que je disais avant, que comme les épisodes 7 et 8, en fait, l'histoire soit beaucoup plus creusée et que ce soit, il y ait vraiment un fil conducteur, parce que c'est ce qui m'avait un peu déplu au début, enfin, qui avait fait que j'avais du mal à m'accrocher quand je regardais épisode par épisode, et qui a fait que je pense, hein, ce qui a fait que j'ai abandonné et que j'ai attendu qu'ils soient tous sortis pour le voir. Et du coup, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait vraiment un lien entre les épisodes, une histoire creusée, qu'on en apprenne un peu plus et qu'il y ait ce rythme au niveau de l'apprentissage de l'histoire, des découvertes,
ouais,
etc.
Ouais, non, je suis totalement d'accord. J'en rajouterais aussi que dans ce fait que ça soit plus suivi, je voudrais que Din Djarin, Mando soit moins solo et qu'il y ait plus de personnages récurrents, que ça soit, ça, ouais, c'est lié du coup, que ça soit une histoire suivie avec un peu toujours les mêmes personnages. Et du coup, dans ces personnages-là, on veut Cara Dune, quoi, évidemment.
Oui, non mais carrément, bien sûr.
Et du coup, une dernière chose, c'est en tant que fan de The Clone Wars et Star Wars Rebels, voilà, j'ai mentionné pas mal de personnages que j'aime beaucoup. D'autres que j'ai pas mentionné mais que j'aime beaucoup aussi, et mais qu'on sait qu'ils sont quelque part dans la galaxie à cette époque, que je sais pas jusqu'où ils vont aller dans le lien entre ces séries animées et cette série là au niveau des personnages. Est-ce qu'on va voir réapparaître des personnages qu'on a découverts en animé et les voir en chair et en os? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de ça, peut-être même des leaks et des spoilers qui sont sortis à propos de ça. Mais on ne veut pas en parler pour justement épargner à tout le monde ce genre de... Si vous voulez avoir des spoilers, allez les chercher. Vous pourrez les trouver tout seul.
Oui.
Mais voilà, je suis très curieuse de savoir si on va avoir des personnages de ces séries-là qui vont apparaître, quoi.
Alors moi, il faut savoir que je déteste en savoir trop, que je n'aime pas regarder les bandes-annonces, que je pense que je l'ai déjà dit, que ce soit pour les films, pour les séries, etc. Donc j'essaye de ne regarder aucune bande-annonce, aucune affiche de la saison 2. Je ne sais pas encore par contre, tu vois, si je vais regarder un épisode par semaine ou si je vais attendre qu'ils soient tous sortis. Je pense que je vais craquer et je vais regarder un épisode par semaine, mais j'espère du coup que le rythme va être suffisamment... intéressant, enfin que ce soit pas des épisodes déconnectés pour que j'ai pas envie justement de lâcher, tu vois. C'est ma petite peur.
Mais comme ça va être comme Outlander, on va se raconter ce qu'on pense des épisodes au fur et à mesure, ça va nous motiver
bien sûr. Mais je pense qu'on fera même des petites pop stories pour chaque épisode, sans spoiler, dire un petit avis sur chaque épisode rapidement, ça peut être sympa.
Oui, et puis évidemment, une fois que tous les épisodes sont sortis, les derniers épisodes va sortir le 18 décembre, un truc comme ça, enfin fin décembre.
Oui.
On fera un récap de la saison 2, mais probablement en janvier, pour laisser un peu le temps de digérer tout ça.
Que tout le monde ait le temps de bien regarder après les fêtes.
C'est ça. Mais évidemment qu'on fera un récap de la saison.
Bien sûr. Mais d'ici là, vous allez pouvoir nous retrouver du coup bientôt sur un popcorn zapping, où on va vous présenter les films qui sont actuellement au cinéma et on va surtout parler de l'actu du cinéma en fonction de la situation. Voilà, quelles sont nos craintes, comment ça se passe pour les cinémas actuellement, quelles sont les actions des différents studios pour aider ou pas les cinémas. Enfin, voilà, tout ça sera dans un prochain épisode dans peu de temps.
Tout à fait. Et donc en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram où on partage plein de choses entre deux épisodes, ce qu'on a vu, ce dont on pense ce qu'on voit au cinéma ou ce qu'on voit sur Netflix, Disney+, et compagnie. Sur Facebook, où je ne poste pas grand-chose, mais où du coup j'annonce la sortie des épisodes. Donc si vous voulez pas louper la sortie des épisodes, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Et évidemment, vous pouvez utiliser Instagram et Facebook pour nous contacter, nous donner vos avis sur les épisodes. Si vous avez des théories, sans spoil, mais des théories sur la saison 2 de The Mandalorian, envoyez-les nous. Et si vous allez suivre aussi la sortie des épisodes, n'hésitez pas à réagir à chaque épisode pour nous dire ce que vous en pensez. On fera attention aussi à filtrer les spoils, évidemment.
Bien sûr. Bonne journée à tous et à bientôt.
À bientôt.